Gameblogueuses, Gameblogueurs, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog.
Salut, ça va?
Avec moi aujourd'hui, vous l'avez entendu, Traz, vous entendez aussi Carole et Julo.
Salut.
Vous le savez, la semaine dernière a été riche en événements,
en émotions
vidéoludiques avec deux keynotes très importantes, à savoir la cérémonie des Game Awards qui s'est déroulée le 3 décembre.
Game Awards.
Et la keynote de la PlayStation Experience, petit salon spécialisé PlayStation qui s'est tenu ce week-end et pour lequel Romain et Julien vous préparent, vous ont même déjà fait une foule de vidéos que vous pouvez enjoyer sur Gameblog. Eh bien, nous allons revenir sur ces deux événements, à commencer, eh bien, évidemment, par le premier. Les Game Awards qui se sont tenus pour nous dans la nuit de jeudi à vendredi.
C'était dur.
Et c'était dur, oui, c'était dur et long, comme on pourrait dire d'habitude. Et là, j'ai envie de me tourner vers vous pour savoir ce que vous en pensez. Est-ce que d'après vous, au regard de deux heures qui se sont déroulées sur les Game Awards, c'était une réussite tant au niveau du palmarès qu'au niveau des world premiere qui étaient soi-disant qui devaient nous fracasser un peu le cerveau.
On commence par quoi?
Et bon, on va commencer par le palmarès si vous voulez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce palmarès?
Ah,
qui
oui.
voit? Alors, on va faire un résumé rapide.
Globalement, oui, je pense.
The Witcher 3, qui est le grand gagnant du palmarès.
Ouais, parce qu'il remporte 3 prix.
Ils ont exactement,
dont le prestigieux jeu de l'année, développeur de l'année pour CD Projekt et RPG de l'année aussi. Les autres gagnants, parce qu'on a compté quand même.
Il y a quand même
Rocket League aussi. Hein,
moi, juste derrière Witcher 3, j'en mettrais 2, parce que, voire 3 qui sont assez étonnants. Parce que c'est d'abord 2 jeux indés. Alors, Air Story, qu'on a beaucoup aimé sur Gameblog,
c'est toi qui l'as fait. Surtout, vous n'avez toujours pas joué.
Moi, j'ai pas joué, mais du coup, moi, ça m'intrigue et j'ai bien
envie. Ça donne
envie,
oui.
En tout cas, il a quand même été élu meilleur jeu narratif et meilleure performance pour Viva Safer qui incarne le rôle principal, unique et principal.
Le seul rôle.
Qui a squatté la scène, d'ailleurs.
De ce jeu très effectivement intéressant en termes narratifs, parce que c'est du jamais vu, quoi. Pour expliquer aux gens, il s'agit vraiment de taper des mots dans un moteur de recherche pour faire ressortir des morceaux de vidéos.
D'une enquête qui s'est déroulée en 7 interrogatoires et à chaque mot est associé à une vidéo.
Et on finit par comprendre l'histoire qui nous est comme ça contée en fonction des mots qu'on tape dans cet ordinateur. C'est assez génial comme principe.
C'est le jeu
et
de l'année.
Ça fonctionne très
moi.
Bien. Voilà. Pour toi, c'est carrément le jeu de l'année devant The Witcher 3. L'autre gagnant indé, c'est Rocket League qui a gagné le prix du meilleur jeu indépendant déjà.
Et meilleur jeu de sport.
Et meilleur jeu de sport course, ce qui est assez marrant parce que c'est à la fois un jeu de sport et un jeu de course justement, parce qu'il mélangeait les deux. Genre. Donc bravo pour Rocket League aussi, c'est assez cool de voir deux jeux indés quand même dans les grands gagnants.
Sur Xbox One.
Et qui arrive à partie des World Premiers.
Ah,
effectivement. Et alors le truc assez étonnant, et je pense qu'on a tous des avis un peu différents. Moi j'en parlais avec Carole en pré-show hier.
Je sais ce que tu veux dire.
On va parler de Splatoon qui rafle 2 prix quand même, qui tendait les bras.
Et attendez, parce que on va associer Nintendo. Juste dites le mot Nintendo juste avant les noms des deux prix et ça va vous faire bizarre.
Voilà,
dans
donc
le cerveau.
Meilleur shooter, donc devant Call of Duty,
Nintendo.
Halo, etc. Donc Splatoon,
meilleur shooter,
Nintendo.
Voilà. Et meilleur jeu multi, donc
en ligne.
Voilà.
Donc
en ligne.
Meilleur jeu multi en ligne,
voilà.
Nintendo.
Donc devant encore une fois les pointures du genre qu'on pouvait imaginer à cette place-là. Donc Call
of Duty, c'est l'école des fans, on le sait ça.
Halo, etc. Donc moi j'applaudis des deux mains, des deux pieds. Et
ouais,
tout,
parce que Splatoon est quand même très apprécié par. Il a une communauté de joueurs qui est gigantesque.
Non mais c'est cool.
Et il est très apprécié.
C'est vrai que ça change
des Call of Duty, etc.
Oui.
etc.
Oui, mais c'est pas parce que ça change qu'il faut donner. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un autre débat pour moi.
Mais je crois que c'est pas juste parce que ça change. C'est juste parce que
c'est
très bon.
Donc tu trouves vraiment qu'en termes de multijoueur, en termes de rythme, en termes de shooter, c'est meilleur.
D'options, de bonus, et tout ça, je suis pas sûr.
Qu'un Call of, par exemple.
Je trouve ça meilleur qu'un Call of.
Sans parler forcément de Call of, d'autres shooters, par exemple.
Bah il y a Halo,
du Battlefront, etc.
Bah visiblement c'est la fraîcheur en tout cas qui a été récompensée.
C'est pour ça. Pour moi, ce sont vraiment deux choses différentes, fraîcheur et technique. Mais
il peut y avoir les deux.
Il peut y avoir les deux. Moi, je n'y ai pas assez joué. Donc, Julo a plus.
J'ai pas mal joué à Splatoon et j'ai été très surpris par ce jeu qui a des qualités exceptionnelles et notamment une en jouabilité parce qu'il utilise le gamepad avec son principe d'accéléromètre qui permet de viser hyper facilement. Ils ont créé un univers qui est ce qui est pas facile quand même quand t'arrives. Nintendo te demande de créer une nouvelle
Mario
licence.
Shooter,
ça aurait pu être Mario Shooter, etc. Je pense que même ça a peut-être dû être ça à un moment donné. Avant qu'ils décident de faire une vraie nouvelle licence. Donc Nintendo, à qui on reproche de ne pas faire de nouvelles licences, en crée une. Je pense que Splatoon va s'intégrer dans le, justement dans le lore de Nintendo, et qu'on verra bientôt des poulpes dans certains autres jeux de Nintendo.
Mais c'est un jeu qui est, et en termes qualitatifs, pour son fun, pour son, pour sa profondeur.
Le gameplay est à la fois simple. Et tu sais, quand on dit facile à prendre en main, difficile à maîtriser,
accessible. C'est vrai que c'est pas si facile que ça quand même.
C'est facile à prendre en main et difficile à maîtriser. Il y a une vraie profondeur et surtout un côté vraiment comment dire, artisanal dans le façonnage de ce gameplay, qui est hyper précis, hyper fun. T'arrives à jouer tout de suite et t'as toujours une marge de progression. Ils arrivent à faire vivre le jeu au terme des mises à jour.
Ils arrêtent pas de le mettre à jour régulièrement.
Et d'ailleurs, quand t'as une Wii U, ton écran se met à clignoter, tu peux appuyer dessus et voir apparaître tiens, il y a un nouveau niveau, ce qui t'incite à relancer. Il y a donc toujours du monde en ligne pour une console où quand même il n'y a pas beaucoup de jeux vendus et pas beaucoup de consoles vendues.
Bref, les autres.
Oui, moi je trouve ça bien. On peut saluer le move de Nintendo, effectivement.
Et surtout le choix du jury des Game Awards. Alors je ne sais pas par qui il est constitué exactement ce jury.
C'est professionnel.
C'est professionnel et fan, non? T'as le vote des fans.
Il y a le vote des fans qui est différent, oui.
D'accord. Par Doritos.
et moi, j'apprécie le fait qu'ils aient mis en avant des jeux frais et nouveaux et indés avec EarthStory, Rocket League et Splatoon. Malgré tout,
il y a des surprises quand même aussi au niveau du, parce que MGS par exemple, Metal Gear Solid 5 Phantom Pain,
il fait partie des grands gagnants, parce qu'il il fait partie des jeux qui
dans les, prix, dans les catégories qu'on imaginait.
Non, il a fait meilleure bande originale et quand même meilleur jeu d'action aventure.
C'est vrai, c'est pas rien. Ce qui est quand même pas mal.
Certains pouvaient peut-être s'attendre au prix de meilleur jeu de l'année. Mais en l'occurrence, Witcher 3 a l'air de tellement être plus universel dans les suffrages des gamers, quoi. Que voilà. On peut noter des grands absents aussi, quand même.
Ouais.
Moi, j'ai été très étonné de voir que Bloodborne n'a reçu aucun prix.
C'est quand même assez incroyable.
Il aurait pu avoir la direction artistique, mais c'est Ori qui l'a eu.
Et c'est Ori qui l'a eu, et t'as l'air de le regretter. Mais
c'est mérité.
Je pense que c'est mérité. C'est très beau. C'est vraiment les deux opposés, c'est ce qu'on disait. Hein.
En fait, oui,
la noirceur et la.
Et le côté un peu Ghibli.
C'est ça.
Ils ont véritablement créé un univers, et ceux qui ont joué à Ori le savent. En plus, derrière, t'as un jeu extrêmement. Justement, j'utilisais le terme d'artisanal. Vraiment, on a un truc fait aux petits oignons, au millimètre, hyper pointu. Enfin, moi, j'ai adoré ce jeu. Je crois que c'est vraiment, si c'est pas mon jeu de l'année, c'est forcément l'un de mes jeux de l'année. Donc, je suis très heureux qu'il ait eu ce prix-là, mais un peu triste quand même pour Bloodborne, qui a lui aussi une direction artistique de malade, quand même. Franchement,
oui, mais c'était peut-être...
je pense qu'il y a eu dû avoir de gros débats, et ça a dû se jouer à peu de choses entre les deux. On peut citer également Lara Croft Go pour le meilleur jeu mobile, Life is Strange pour le prix Game for a Change, qui est en fait le prix des jeux qui font avancer le schmilblick. Super Mario Maker pour le meilleur jeu familial.
Ça, c'est un peu...
T'as mis quoi?
Je sais pas, attends, je vais regarder qui étaient les autres. Il y avait Disney Infinity, Lego Dimension, Skylanders, ouais. Superchargers et Splatoon. Mais je sais pas, parce que Super Mario Maker, mais alors, même s'il est accessible, il m'a l'air un peu... Je sais pas aussi. Alors, je sais qu'il y a des enfants de 5 ou 6 ans qui
arrivent. Mon gamin, il fait
de la
maison.
C'est un truc de fou, parce qu'ils ont réussi, je trouve, quand même, avec Super Mario Maker, à faire quelque chose de beaucoup plus simple et presque d'aussi profond que dans Little Big Planet. Qui est. Pour le coup,
Planet, c'est un peu plus compliqué.
Little Big Planet, c'est compliqué. Tu mets pas un enfant devant le créateur. Et toi-même, en tant qu'adulte, il faut que tu travailles, quoi. C'est pour faire des vidéos. Alors que dans Super Mario Maker, il y a quelque chose d'instantané.
Je sais pas si j'aurais pas mis Lego Dimensions personnellement.
Ouais,
mais après,
c'est vrai qu'il méritait un prix, Lego Dimensions.
Ah bah rien que pour le côté vraiment familial, quoi. C'est vraiment la culture populaire au sens le plus large possible, avec toutes les licences qu'ils proposent, etc. Mais après, bon.
Voilà, donc avec Ori, comme je vous le disais, qui a le prix de la meilleure direction artistique, on est donc là avec un palmarès complet. Voilà.
Exact.
Donc moi, je le valide totalement.
Oui,
ce
non, a priori,
c'est
vrai.
Vous êtes
assez d'accord?
Moi, je suis assez d'accord.
Absolument, notamment pour The Witcher 3.
Avec EarthStory qui m'intrigue.
Bon, il faut savoir aussi que pendant le show en lui-même, il y en a certains qui ont été zappés. Genre le meilleur shooter, on l'a pas vu en direct. Le meilleur RPG, on l'a pas vu en direct. Ce genre de choses. C'était un peu bizarre. Il y en a même qui étaient montrés en pré-show.
Ils avaient peut-être peur que ce soit trop long.
Et du coup, je me pose la question maintenant. Est-ce que le show en lui-même était bien calibré?
Franchement, ouais. Ouais. Moi j'avoue que j'ai pas vu le temps passer.
Je trouve que ça manquait effectivement de grands moments, de moments de grâce, un peu comme le PlayStation Experience d'ailleurs, mais on y reviendra plus tard. Effectivement, je trouve que ça a manqué un peu de saveur. Ça
ah bon, mais à quel niveau en fait, trouvé, voilà, mais c'est pas au niveau du rythme, hein, parce que si ta question
non,
c'est
parce
le
rythme, que le rythme, il
était bon. Le rythme était nickel.
Ça suffisait, franchement, c'est pas plus que ça.
Le problème, c'est les annonces en elles-mêmes.
C'est ça. Ouais.
Dire que, en fait,
c'est un palmarès. Le rythme, le côté cadré, le côté technique, on va dire, le côté froid.
Moi, ça, j'ai
ça marche bien, c'est bien organisé.
C'est solide, mais ça manquait un peu de sel.
Donc, c'était plaisant à regarder, mais il manquait des choses.
C'est le contenu qui faisait défaut, c'est-à-dire que dans les grosses annonces, on a eu quoi? Les plus grosses annonces de ces Game Awards.
C'est pas un choix d'annonce, hein, c'est un choix de récompense.
Les autres années, il y a eu des gros.
C'est des remises de récompenses.
No Man's Sky, a été annoncé à l'occasion des. C'était les VGX.
Oui, il y en avait plus l'an dernier, c'est vrai. Mais bon, plus on va avancer dans le temps de la console, moins on aura des choses.
Donc au niveau annonce, on a eu une double annonce de Telltale, Batman, une nouvelle série, donc Batman chez Telltale, plus un nouveau The Walking Dead avec
Michonne, on le savait déjà.
Qui était déjà annoncé, mais on avait des petites images. D'ailleurs, j'ai pas vérifié si la doubleuse était bien l'actrice qui joue dans la série. Ou s'ils allaient prendre quelqu'un d'autre, parce que là c'est inspiré des comics en général.
Il y a eu la fameuse annonce de Rocket League sur Xbox One. Bon,
voilà.
Le DLC de Tomb Raider, alors là ce qui est très bizarre, c'est qu'il a été annoncé, mais
il a pas
en pré-show.
Annoncé avant,
C'est-à-dire que les gens qui se sont levés à 3h du mat pour regarder le truc, ils ont loupé une des grosses annonces qui était le DLC de Tomb Raider.
Oui, j'ai pas trop compris cette façon de
pourquoi
faire.
Pourquoi l'avoir
cette
fait
structure,
avant
Bah, peut-être qu'ils ont payé, je sais pas.
Grosse annonce aussi, Psychonauts 2. Alors, grosse annonce, on met des guillemets.
C'est la grosse annonce de ce truc-là.
Oui, il faut mettre des guillemets parce que la plupart des gens s'en foutent de Psychonauts.
C'est un peu
alors,
ça,
Psychonauts qui est sorti en 2005 ou 2006, si je me rappelle, c'est un jeu qui est passé complètement inaperçu, malheureusement, alors que c'est un des meilleurs jeux de plateforme qui est sorti ces 20 dernières années.
Depuis les temps ou pas ?
Un jeu de Tim Schafer chez Double Fine. Et enfin, une suite. C'était prévu, hein, la fin du premier laissait largement entendre qu'il y avait une suite. C'est vraiment
T'as joué à Psychonauts ?
J'ai pas fini encore, va falloir que je m'y remette d'ailleurs.
J'ai jamais fini, mais moi j'ai joué pas mal aussi.
C'était génial. Il y avait un humour et un esprit qui était incroyable.
Qu'est-ce que ça t'a bien fait ?
Non, mais c'est un des meilleurs jeux de plateforme auquel j'ai pu jouer, un des plus malins en tout
plateforme
cas.
Réflexion on va dire.
Parce que
il y avait des grosses énigmes quoi. Et ce qui était génial, c'est que t'allais dans la tête des gens en fait. Les niveaux, c'était t'allais.
Tu étais un psychonaute.
Exactement.
T'allais dans l'esprit tordu des gens qui avaient autour de toi. C'était la cour des miracles un peu quand même. Des
esprits, c'est un peu décalé. J'aime bien ce genre de jeu. C'est totalement différent.
Avec un style très particulier aussi.
Un style visuel très cartoon et très très sympa. Et donc c'est une bonne chose. Donc ce qui se passe avec ce jeu, c'est que Tim Schafer est monté pour annoncer une campagne de financement participatif qui va permettre,
comme toujours,
pour la première fois d'investir et donc de voir peut-être un retour sur investissement, mais il va falloir investir des sacrées sommes pour être sûr de pouvoir au moins doubler la mise. C'est assez intéressant, ça passe par le site de, ça passe pas par Kickstarter, ça passe par un site qui s'appelle Fig, et faudra voir ça. Et dans les facs, il y a écrit est-ce que vous prévoyez une suite à Brutal Legend, et ils disent oui, vous inquiétez pas, on verra avec le succès de Psychonauts 2 si ça marche. Voilà.
Il a pas annoncé que ça d'ailleurs.
Il n'y a pas que ça, mais ça on verra au PlayStation Experience tout à l'heure.
Les autres choses que,
alors,
que
Double Fine. Juste pour finir avec les annonces, donc Rock Band VR a également été annoncé. Donc un Rock Band version PlayStation
ça,
VR.
Ça peut être marrant.
Ça peut être marrant.
Ça peut être vraiment cool.
Ouais, honnêtement, le VR, il y en a eu un sacré paquet.
Je ne sais, moi j'adore Rock Band.
J'y
ai joué pas plus tard qu'hier. J'ai enchaîné mes titres de Nirvana.
La Nirvanance.
Au secours.
Je ne sais pas.
C'est bon ça.
Je ne sais pas pour Rock Band VR. Je préfère Hervé VR personnellement.
Hervé VR, c'est mieux. Non, mais voilà, enfin c'est une annonce assez sympa.
Ou VR Real.
Bah oui, c'est
tu
cool.
Tu connais ou pas le club de VR?
Très bien. Et enfin Shadow Complex Remastered qui a été annoncé, qui est un peu un foutage de gueule d'après ce que tu m'as dit.
Alors,
parce que t'as téléchargé le jeu et
j'ai
téléchargé
en fait, je sais pas si ça devait être un moyen de faire une promotion pour l'espèce de Origins, la plateforme de téléchargement d'Epic Games. Alors effectivement, j'ai été le télécharger et je cherche où est le mot Remastered quand j'y joue. Parce
je sais pas, en regardant comme ça, j'ai eu l'impression que c'était plus joli qu'avant, mais en fait
et
c'est
ça
même.
N'était qu'une impression.
Bah ouais, franchement,
sûr,
c'est qu'une impression. Alors j'ai pas avancé beaucoup non plus, hein, mais il y a rien qui a changé à mon sens. Et puis c'est toujours les mêmes doublages de l'époque, et franchement, ils sont ridicules.
C'est un jeu génial,
oui.
Malgré tout.
C'est violent.
Et ce qu'ils ont annoncé quand même, c'est qu'il était gratuit sur PC. Là.
Il est gratuit.
Allez-y, servez-vous, c'est gratos.
Ouais, c'est ça. Mais les doublages français sont toujours aussi pourris. Alors faites attention.
Merci, Shadow Complex, t'as pas aimé ?
Non, c'est génial. Pas joué, j'en sais rien.
Bah c'est un des super jeux qui a lancé à l'époque le.
Oui,
le
je sais que tout le monde en a dit bien, mais
c'était un des gros jeux. Du
et puis même le principe tout entier de télécharger des jeux qui étaient de grande qualité à l'époque, ça a commencé avec ça.
Bah du coup, si tu te le prends là sur PC, tu seras pas déçu.
Voilà. Parce que tu l'auras pas payé.
Exactement. Comme tu l'auras pas payé, puis en plus, comme tu n'as pas fait l'épisode original, tu verras pas de différence.
C'est mieux que The Last of Us.
Et donc, pour les autres, on va dire les autres trailers, parce qu'il y a peut-être pas que des annonces.
En nouveau trailer, on a eu Uncharted avec un nouveau personnage qui était dévoilé.
Ah, un nouveau perso, Nadine.
Nadine
Ross.
Nadine Morano.
Ouais, j'espère.
Non,
elle se cache en fait. Moi j'étais un petit peu déçu que ce soit pas une séquence de gameplay.
Oui, mais c'est pas grave. Moi je préfère qu'ils en montrent rien.
Pareil au PlayStation.
Mais franchement, Carole, c'est quand même mieux qu'ils ne montrent pas grand chose.
C'est ce que je me suis dit moi quand j'ai fait mon petit récap des Game Awards. Quelque part, ils ont bien retenu la leçon par rapport à Uncharted 3.
Exactement.
Où ils avaient montré énormément, t'avais l'impression d'avoir vu la moitié du jeu.
Ouais. Bah là, on voit juste qu'elle lui fout une sacrée volée.
Là, il n'y a que des CG. Ils ont d'ailleurs sorti une autre vidéo le lundi même, vous devez l'avoir sur le site, avec Sully, Nadine et
tout à fait. Le frère de Nathan. Et Nathan. Effectivement, ouais.
Voilà, donc que des CG pour l'instant, c'est pas plus mal. Hein. La seule vidéo de gameplay qu'on a vue, c'était celle de l'E3. Mm. Qui a duré 15 minutes, mais voilà. Mais c'est très bien.
Ouais, puis
voilà.
Au final, si c'est pour voir toujours la même chose, effectivement, il vaut mieux garder.
J'étais un petit peu déçu aussi par l'une des autres vidéos qui était attendue, celle de Quantum Break.
Ah oui. On n'a pas eu ce qu'on voulait là.
Bah, parce que Quantum Break, ils ont fait un petit teasing avant.
Sam Lake.
Voilà, Sam Lake, un petit texto.
Tu demandes à Sam Lake d'être un peu mesuré dans ses tweets. C'est foutu.
Dans son tweet, il dit oh là là, vous allez découvrir. Du neuf avec des trucs incroyables et en plus il disait plus ou moins que ça allait être du gameplay. Ouais. Or une fois de plus, ça a pas été du gameplay, ça a été une séquence toujours aussi cool de voir que ce jeu a une patte esthétique bien particulière
et
un scénario qui a l'air cool et tout. Mais voilà, on a découvert à nouveau une séquence cinématique de Quantum Break.
Ouais, pas de gameplay aussi,
là où on s'attendait
gameplay,
à avoir
hein.
du gameplay. Et puis surtout, on nous avait teasé à mort sur le nouveau moteur. Genre, ouais, vous allez voir les nouveaux éclairages, ils défoncent et tout.
Bah, ouais, ça va quand même.
Oui, non, mais c'est super beau. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que on pensait voir du gameplay et faire waouh, c'est vachement mieux que le dernier gameplay qu'on ait vu. Et en fait, pas du tout. On a eu donc,
c'est pas grave. Moins ils en montrent. Enfin, parfois ça peut cacher des choses un peu chiantes. Mais... Voilà.
Et le truc que je retiendrai le plus finalement, c'est la démo de Far Cry. Primal, enfin c'était pas une démo, mais il y avait un peu plus de gameplay.
Oui. Qui a l'air fantastique, hein. Moi j'ai hâte. Hein. Mm-hmm. Je pense que ça va rafraîchir un petit peu la licence parce que là, l'épisode 3 et 4 notamment,
ça
ressemblait vachement.
À voir, là, carrément.
C'était pour moi, le 4 c'était vraiment du 3.1 et là on a vraiment quelque chose de différent avec univers qui en plus moi m'attire particulièrement.
Qui fait un peu penser à Wild, hein, de plus en plus. Hein.
Oui, c'est ça, ouais. Mais tu sais pas comment ils ont fait les.
À mon avis, ce sera vraiment différent. Ouais. Parce que Far Cry restera quand même Far Cry.
Faudra
ça reste une licence qui est déjà bien installée.
Ça me rappelle quand Disney et Pixar avaient fait Wild d'un côté et l'autre Madagascar. Vous rappelez,
je me rappelle plus.
C'est sorti exactement au même moment quasiment. C'est exactement la même chose. Un zoo avec des animaux machin qui retourne en Afrique.
Je me rappelle plus du
tout. Ah ouais, effectivement.
Je sais pas qui a copié sur l'autre, mais c'était pareil.
Ouais.
Bon. Ah, c'est comme il y a eu la guerre des boutons.
La guerre des boutons, il y a eu deux films en même temps.
Ah, comme par hasard, les droits étaient tombés.
En tout cas, Far Cry Primal, ça a l'air cool.
Ouais, tu peux apprivoiser les animaux, tout ça machin.
Et l'univers est top.
C'est ça peut
puis
être
Far Cry, c'est
vraiment
efficace,
sympa.
Quoi.
Il faudra voir comment ça se comporte. Hein. Ça
oui,
sera
parce
le...
que là, ça va être très différent quand même.
Ça sera en février, le 23 ou 26, je sais plus. 23 février sur PS4, PS4, PC,
ça, en fait,
Xbox One.
On n'a pas vu grand chose depuis l'annonce. Hein. Donc,
non, on n'a pas vu grand chose, mais bon.
C'est une annonce très 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 tardive, quoi. Donc, soit c'est extraordinaire, soit c'est un four.
Bon, on verra. Si c'est comme Far Cry 2 et qu'il est chiant,
nous
ou s'il est comme Far Cry 3 et qu'il défonce.
Nous verrons.
Mais bon, il n'y a pas eu que ça durant ce Game Awards.
En termes de jeu et d'annonce, si.
Mais il y a eu l'absence d'intéressant.
Il y a eu l'absence de Kojima.
Bah alors justement, on allait venir. C'est peut-être qu'il y a
Konami.
Hors contexte. Jeu qui était le plus intéressant. On va commencer évidemment avec ce moment un peu grave où Jocky regarde la caméra et dit écoutez, voilà, Hideo Kojima devait venir.
Mais quelle honte.
Mais les avocats,
et au final,
pas voulu,
les avocats de Konami lui ont dit non, tu n'as pas le droit d'aller au Game Awards.
Récupérer le prix pour ton jeu.
Exactement.
Non,
il faut
ça,
savoir
c'est...
qu'au Japon, il a récupéré un prix. C'est quelqu'un de l'équipe, on ne sait pas qui, une exécutive qui a récupéré le prix. Et là, il n'avait même pas le droit de se rendre à la cérémonie.
Mais en fait, il ne représente plus Konami tout simplement. Hein,
ouais.
a l'impression que
légalement,
c'est ça.
Ah, ils veulent plus légalement, de toute façon, et légalement, effectivement.
Ouais, c'est Kiefer Sutherland, du coup, qui a récupéré les prix en question.
Mais ce qui était très, très étonnant là-dedans, c'est que quand ce genre de choses arrive, d'habitude, on n'en sait rien ou on le découvre plus tard, etc. Là, Geoff Keighley a voulu déballer ça en public pour bien marquer le coup.
Pour tacler Konami.
Et alors là, pour le coup, justement, Konami doit s'en mordre les doigts, je pense, parce qu'au niveau communication,
ils sont plus après, à mon avis, ils s'en foutent.
Au niveau image, là, ils se sont tirés une balle dans le pied.
Mais c'est moche, tu fais pas ça au créateur du jeu. C'est lui qui a donné vie quand même à une des plus grandes sagas du jeu vidéo. Il doit recevoir un prix pour ce jeu et tu interdis au mec de venir, c'est moche. C'est petit et c'est moche.
Le conflit doit vraiment être un niveau nucléaire.
Je pense que là, ça doit être tendu.
C'est pire que ce qu'on croit, à mon avis.
Exactement. Et puis.
C'est honteux, ouais.
Je me demande si un jour on saura vraiment tout ce qui s'est passé.
Ah oui,
ça sortira sûrement.
Bah on saura bientôt certainement ce qui va se passer pour Kojima en format épisodique.
Il va faire un jeu sur sa saga chez Konami.
Non, mais c'était vraiment un moment
gênant.
Non, mais je veux dire étonnant quoi. Et ça a lancé finalement une série de moments.
Il y en a eu plus d'un. Bon, il y a eu le moment émouvant, évidemment, on a tous apprécié. C'est le moment où Reggie Fils-Aimé est venu rendre hommage à Satoru Iwata, en termes élogieux, évidemment, puisque l'homme le méritait. Qui lui expliquait aussi la direction de Nintendo, du coup, que l'idée c'était de donner le sourire aux gens et que c'était vraiment dans la continuité de ce que voulait Satoru Iwata. C'était un moment assez émouvant.
C'était un hommage plutôt.
C'était sobre, c'était beau.
Enfin voilà, tout simplement.
Mais il fallait le faire. Il fallait le faire.
Il a pas fait trop et ça suffisait.
Effectivement, c'est bien d'en savoir plus un peu sur effectivement le futur de Nintendo.
Mais ça montre à quel point ce président de Nintendo a quand même marqué.
Il a marqué les esprits.
L'industrie, de manière générale, c'est ça.
Succès colossal de la Wii.
Comme l'a dit Reggie pendant son petit discours, il y a 5 plateformes qui ont dépassé les 100 millions d'exemplaires de vente dans le monde. 3 d'entre elles
sous la direction de
pas forcément sous la direction Iwata a travaillé
pas loin.
Dessus,
oui, parce que
deux sous sa direction totale et un à plus à distance.
Ça faisait quasiment 30 ans qu'il était chez Nintendo, je crois.
Mais voilà, sur 5 consoles vendues à plus de 100 millions d'exemplaires, impliqué derrière 3 d'entre elles. Donc il y a ça, et puis il y a le côté un peu créatif, un peu l'élan nouveau qu'il a su insuffler chez Nintendo, et le respect de tous ses pairs en fait. Qui transpirait là-dedans. Du simple fait qu'on lui rende hommage à lui, il y en a eu d'autres. Qui sont décédés en cours d'année, etc. Et là, il a eu un hommage particulier, quoi.
Alors ça, c'était le moment émouvant. Il y a eu des moments un petit peu gênants aussi.
Pour moi,
c'est un jeu. C'est la révélation de Shaq Fu Legend Reborn.
Ah oui.
D'accord.
Alors je sais pas pour vous, mais moi là, ce que j'ai vu, ça m'a vraiment pas donné envie.
Non, moi non plus.
J'aime bien Shaquille O'Neal, il me fait marrer, etc. Mais alors je crois que là, il en a trop fait pour ce qu'on a vu. Ça a l'air juste désastreux.
Bah ouais.
Désastreux.
Ouais, non, mais regarde le jeu quoi. Juste
honnêtement, oui, ça va être pourri.
Maintenant,
ça va être pourri.
On est peut-être qu'au début du développement, etc.
Ça fait un petit bout de temps, à mon avis, qu'ils en parlent.
Ça se trouve, c'est un jeu mobile. Je ne sais pas. En tout cas, ça se présente mal.
Il semblerait que ce soit un jeu mobile.
Ça se présente assez mal pour Shaq Fu Legend Reborn, qui est censé arriver sur toutes les consoles
mobiles,
nouvelle génération.
En plus, moi je fais pas du tout partie des gens qui ont un affect avec le jeu original, donc
c'est vrai.
Ce que j'ai adoré dans le jeu original, c'est les animations, c'est tout.
Oui, mais d'accord, mais enfin,
le reste,
faut être fan de Shaquille O'Neal.
Moi je suis un fan des Lakers, donc j'ai apprécié de le voir jouer, mais à part ça,
c'est LeBron James.
Si t'aimes pas le basket,
bon, ok. Autre moment un petit peu gênant là, c'est du côté. Non, c'est toujours pas ce que tu penses.
C'est toujours pas
monté la sauce.
Nous, on est sur...
Non, c'est le côté publicitaire un petit peu à chaque interlude où on allait voir les.
C'est un show à l'américaine. Hein.
Les petits intervenants comme
M&M's,
Cliff Blazinski ou encore Deadmau5 et j'en passe, qui étaient donc dans un espèce de carré VIP où vous avez le droit de jouer à Battlefront. Et on n'a pas arrêté de nous le dire, ça, que ça jouait à Battlefront. Alors Cliff, tu joues à Battlefront, comment tu penses que le jeu
va être?
En même temps, cette saison de parler de Star Wars, il y a du Star Wars partout, on en met partout.
Mais c'est surtout un gros contrat publicitaire et il était, on va dire,
c'est en gros avant de savoir ce que tu penses du show, on va savoir ce que tu penses de Battlefront. Donc c'était pas très subtil, voilà.
Mais c'est un vrai show à l'américaine. Dans l'esprit des Américains, ça n'a aucun.
C'est ça en fait. Ici, ça pose aucun problème. Là-bas, ils s'en fichent complètement. Pour eux, c'est normal.
Bon, et est-ce que c'est normal que j'aide Raymond?
Pour le coup, c'était pas de sa faute.
Alors non, je parle pas de ça.
Ah,
on va faire les choses dans l'ordre. J'aide Raymond qui arrive sur scène et qui donc va présenter le prix de l'interprétation.
Le prix du danger.
Et qui dit que serait Solid Snake sans la voix de David Hayter.
Et là, ouais, David.
Avec quand même Kiefer Sunderland juste devant elle.
Ouais, voilà, c'est ça,
c'est et nous là on dit oui.
Et là, petit applaudissement, mais sourire gêné et désolé, c'était un peu vache de sa part. Effectivement, c'était un peu vache de dire une chose pareille.
C'était pas vache, c'était complètement maladroit en fait.
Moi, je pense que c'est un tacle réfléchi, mais effectivement mais maladroit. Envers qui
c'est pas envers Konami puisque c'est Kojima qui a choisi Kiefer Sutherland.
Oui, mais bon, peut-être pour un peu marquer le coup, mais effectivement, c'est.
Pour moi, c'est plutôt. Enfin, si c'est voulu pour faire un petit peu mal et piquant, c'est un tacle à Kiefer Sutherland qui est juste devant elle déjà. Enfin, un manque de respect.
Sutherland, pas Sutherland.
Et c'est un tacle envers Konami Kojima d'avoir changé le doubleur historique.
Je pense que
de
c'est
Snake.
Effectivement ça, tacle à Konami, mais sans forcément vouloir. Et elle a dû se rendre compte, effectivement. Les yeux ont dû tomber sur Kiefer et elle a dû dire merde, c'est pas très très cool.
Moi je pense qu'on l'a soufflé dans l'oreillette,
c'est
pas
une petite bourde. Voilà. Bon, je t'en veux pas. On lui pardonne.
Tu prépares ton petit discours au moment où tu vas rendre le truc.
Oui, mais on l'a soufflé dans l'oreillette, c'est Geoff Keighley.
Ouais, tout ça c'est écrit à l'avance.
C'est la faute de Geoff Keighley.
Je pense que c'est tout était préparé.
Après, c'est peut-être aussi la solidarité envers David Hayter.
Mais oui, voilà, tout simplement.
C'était peut-être pas le moment aussi, tout bêtement.
C'était peut-être pas le moment.
Peut-être pas pendant une célébration que tu rappelles les problèmes de famille. C'est pas Noël que tu parles de je sais pas quoi que t'as eu quelques mois avant avec tes parents.
Bon, c'est un moment gênant, c'est tout, c'est pas grave.
Ouais, mais le moment encore plus gênant était après. Mais là, c'est pas de sa faute.
Là, c'est pas de sa faute.
C'est la fiche.
C'est jamais
alors,
sa faute. C'est ce que ma mère me disait quand j'étais petite. C'est jamais ta faute.
C'est la faute de Geoff Keighley qui l'a avoué par la suite, et bien sur Twitter, parce qu'il y a eu un problème de fiche, il y a eu un problème d'impression, et la pauvre a dit que la gagnante du prix d'interprétation était Viva Cypher pour The Witcher 3 au lieu de Her Story, ce qui a acheté une certaine confusion
qui a acheté elle même
où oui, tout le monde s'est regardé, mais c'était bien pour elle au moins, ça c'est sûr, et malheureusement c'était pour Her Story et non The Witcher 3. Alors là, le truc c'est qu'au moment où elle lit le papier, elle pourrait se dire
mais j'ai l'impression qu'elle a hésité un peu.
C'est ça le problème, c'est où tu lis bêtement ce qu'on t'a écrit, où tu maîtrises ton sujet, et je pense qu'elle a lu bêtement.
Elle a lu bêtement,
mais attention, c'est un contexte particulier, c'est sur scène, il y a plein de gens et tout,
c'est pas faux.
Mais après elle a fait l'annonce avant, elle a fait l'annonce de chacun des de chacun des acteurs
et de chacun des jeux. Alors tu lis pas bêtement, moi c'est, enfin je veux dire, c'est comme si on te disait donc Big Boss, le héros de The Witcher 3. À
bon
ça dit,
je vais pas lui jeter la pierre,
oui,
c'est pareil.
Ils se sont trompés,
c'est sûr que normalement tu fais pas la faute si t'es dans le milieu.
Mais dans ce cas là
tu dis alors qui a gagné, c'est The Witcher 3 ou
c'est ça, voilà,
oui, elle a dû se faire un sac d'embrouille, et en même temps c'est pas très
bon. Enfin bon, c'était marrant.
Je pense que The Witcher 3 a gagné tellement de prix que
vous savez quoi, c'est ce
non,
que quand on va se rappeler donc de ces Game Awards 2015,
on se rappelle que de ça. Bah Kojima, Draymond et tout.
Exactement.
Tout le reste on s'en fout.
Mais tu veux qu'on se rappelle de quoi?
Les annonces sont pas assez grosses pour
on va pas se rappeler
dessus,
de l'annonce
quoi.
de comment il s'appelle, Rocket League sur Xbox One, donc la nouvelle cinématique d'Uncharted en fait. On va se rappeler de Jade Raymond et de Kojima.
C'est ça l'internet moderne, mec.
Bah oui.
C'est ça qui rythme un peu les bourdes, c'est les surprises, c'est les déceptions, c'est ça qui
les
fait
buzz, les mêmes.
Bah justement, parlant de déception, il y a eu des absents, non?
Parce
qu'on attendait les 10 World Premières, mais dans les 10 World Premières,
Il y en a eu 10, mais ce qu'ils appellent des World Premières, c'est pas
des World
Premières. On n'a pas forcément des annonces, c'est des nouvelles.
Mais il y avait des choses qu'on voulait aussi, il y avait des choses qu'on imaginait.
Zelda,
le fameux Zelda qui n'est jamais arrivé
sur Wii U.
Mais c'est peut-être ça, aujourd'hui, il doit y avoir une annonce très importante.
Ah oui, vrai, au moment où on enregistre, ce lundi 7 décembre 2015, c'est possible que Nintendo annonce un truc. Moi j'imaginais Cranky dans
Cranky,
c'est possible,
mais ça se trouve ce sera totalement autre chose. Mais pourquoi pas
être...
Zelda, pourquoi pas
ça c'est vraiment une grosse déception.
Je sais pas
qu'est-ce
qu'il y a d'autre. God of War évidemment,
du
aussi
God of War qu'on n'a pas eu d'ailleurs,
God of War 4,
un retour de The Last Guardian. Bon, enfin il y a plein de jeux qui auraient pu être montrés
et qu'on n'a pas eu d'ailleurs derrière
The Last Guardian.
C'est un peu moi aussi j'y vois
moi rigoler, mais
quoi,
The Last Guardian il sortira jamais.
Arrête de dire ça, mon Dieu, mais enfin.
Ouais, c'est pas cool.
Quelle
négativité. Chose, tu vas le faire pleurer.
C'est la déception de l'année.
Non, ne dis pas ça parce que sinon je m'en vais.
Préparez-vous à une déception terrifiante.
Il sortira peut-être sur PS5. Hein.
Oui, bah peut-être.
C'est possible.
Bon bref, il y a pas de, vous avez pas eu de d'absent marquant.
Si,
vraiment,
si, pour
pas...
moi le Zelda c'est le plus.
On l'attend tellement, le moment, ce nouveau Zelda, plus, on l'attend tellement avec impatience. On n'a
rien vu dessus,
à part la plaine avec Link sur Epona. Montrez-nous-en un petit peu plus. Un Goron qui traîne, un Zora, enfin quelque chose de la matière. On a
Zora
rien.
Larousse.
Zora Larousse.
Moi,
voilà,
je pense qu'ils ont tout refait. et qu'ils peuvent, ils peuvent plus rien montrer maintenant
pour que ça sorte sur
Anix.
J'attends l'annonce
sur Wii. Non mais ça va faire pitié sur Wii U s'ils sortent un truc
mais bah, non tu verras ça, je pense qu'ils
ont bien fait. La Wii U est capable de faire des belles choses.
Non mais il n'y aura jamais les textures que tu auras sur une prochaine console.
Ah bah ça c'est sûr.
Donc si on faisait The Last of Us Remastered, le cheval,
si on faisait un bilan des Game Awards, si on pouvait aussi arrêter de parler tous en même temps,
vas-y on t'écoute.
Donc si on faisait un bilan des Game Awards, vous serez plutôt positif pour
moi? Plutôt franchement ouais, je t'ai dit ça a duré 2 heures et c'est passé assez rapidement. Même en faisant des news en même temps et en regardant.
Est-ce que tu retiens le plus alors?
C'est bien rythmé. Bah moi toujours Uncharted 4 hein, mais je suis bon public pour cette série donc forcément voilà, moi voir un petit bout même des cinématiques machin avec un nouveau perso, bah je suis content.
Carole?
Solide mais manque
comme
solide comme un rock mais voilà, manque de sel et marqué par le par l'absence de Kojima.
De
voilà, ça c'est vraiment déçu par l'industrie voilà.
Julo,
moi je retiens le palmarès,
ouais,
que je valide totalement.
Splatoon.
Et à côté de ça, je retiendrai absolument rien d'autre que les aspects hors jeu qui m'ont fait rigoler. Voilà.
D'accord. Bon, on va rigoler, on va continuer à rigoler avec le PlayStation
Experience.
Enfin, rigoler
ou qui m'ont étonné.
Un petit peu. Ou ému, avec Régis.
C'est bon, là.
Alors, le PlayStation Experience, là, c'est un, on va dire, un mini-salon qui, lui, s'est tenu ce week-end, donc les 5 et 6 décembre. Et il y a eu une keynote. Alors,
il a été ouvert, en fait.
Voilà.
Donc, il faut rappeler d'abord ce que c'est le PlayStation Experience. Hein. Le PlayStation Experience,
typiquement PlayStation.
Voilà, on dit un salon, c'est presque une convention. C'est-à-dire,
oui,
c'est
plus une convention.
Dans le sens, plus de 5200 personnes, apparemment.
Voilà, c'est ça.
Donc, plein de gens qui ont payé.
Dans le sens où en fait c'est pas un événement créé pour les professionnels et pour la presse, etc. La presse et les professionnels sont invités, mais c'est un truc de fans, quoi. C'est-à-dire les fans de la PlayStation achètent leur ticket d'entrée, se pointent, voilà, c'est $70 et ils peuvent jouer
108 jeux,
voilà.
Exactement.
Il y avait plus d'une centaine de jeux et assister à la conférence. C'est-à-dire que d'habitude les salles de conférence de presse, d'ailleurs c'est pas une conférence de presse finalement, sont remplies de journalistes et de professionnels. Là c'était rempli de fans qui étaient là, tu vois, donc ça devait foutre une ambiance particulière, etc. Voilà.
Il y a ça, il y a aussi des petites interviews, hein, qui sont éparpillées pendant les deux jours. Moi, j'ai vu une photo de Romain avec Tim Schafer qui est assez désastreuse, où il y a 4 personnes qui sont affalées dans des boudins alors que lui il est en train de se faire interviewer. Ça faisait un peu bizarre pour une légende comme lui. Mais bref.
Mais j'ai eu Julien au téléphone entre temps et apparemment effectivement il n'y a pas beaucoup de monde sur le salon, donc c'est hyper agréable en fait, c'est détente pour les journalistes en fait, puisque finalement il n'y a pas trop de monde, tu dois pas trop faire la queue pour tester des jeux, il y a plein de jeux en réalité virtuelle et c'est cool aussi pour les joueurs parce que t'arrives, pareil, il y a pas de queue, c'est pas la Paris Games Week
et puis tu rencontres les créateurs des jeux.
Les créateurs, donc je trouve que c'est une très belle convention quoi, pour les fans.
Ouais, bah, de toute façon, on a plein de vidéos qui arrivent ou qui sont déjà arrivées sur Gameblog, justement par rapport au PlayStation Experience. Romain et Julien ont essayé des tas de trucs que nous, on n'a pas pu essayer ici, forcément. Puisqu'on les a regardés de loin en pleurant. Mais je vais quand même revenir un petit peu sur cette keynote, puisque c'était le point culminant de ce week-end. C'est la dernière... on va dire la dernière conférence entre guillemets de l'année
de 2015. Ouais.
Et bah est-ce que ça se finit bien d'après vous justement avec cette keynote qui était quand même, on va dire que le mot, enfin l'expression mal rythmée prend son sens parce qu'ils ont quand même lâché tous les plus gros trucs.
Alors,
au début.
Deux plus grosses cartouches au début quoi.
Ouais. Et puis c'est pas des grosses cartouches, c'est des cartouches, enfin c'est
des cartouchettes
auxquelles on s'attendait.
Une énorme cartouche. Non mais autant Uncharted on a revu effectivement au moment de lancer la conférence une nouvelle séquence cinématique, mais bon elle était assez cool. Et là je rejoins un peu Trace, quand t'aimes bien Uncharted voir son frangin. Et on a vu aussi que t'avais des choix.
Voilà.
Dans les discussions, dans les dialogues.
Je crois pas que ce soit des gros choix.
Non, ça n'aura aucune incidence.
Ouais, je pense qu'en fait, ce sera simplement
parce que les trois choix possibles,
cinématiques,
il aurait dit exactement la même chose.
Ouais. En fait, les trois choix, c'est Uncharted 1, Uncharted 2,
c'est ça,
exactement.
Ouais.
Mais enfin bref,
pour l'instant, en tout cas, on n'en sait rien.
Voilà, donc une petite nouveauté qui a été dévoilée, mais c'est encore une cinématique.
Peut-être que c'est un teaser justement pour
dire attention. De grande classe quand même.
Ouais, super classe.
Ouais, dure plus de 4 minutes.
Et puis avoir Nolan North et Troy Baker qui discutent ensemble, j'aime bien en fait cette idée.
Sur un banc.
Je me suis fait le spawn de Borderlands.
C'est cool, ouais.
Et donc du coup, je dois vous avouer que les retrouver à chaque fois en train de parler ensemble, ça fait assez bizarre. Et là, la séquence est très très bien faite. Et surtout, elle finit vraiment. En se disant,
ah oui, oula,
qu'est-ce qui nous attend?
Qu'est-ce qui va se passer là?
Parce que merde, j'ai des problèmes.
Je suis dans la merde, en gros, ils disent.
Je suis dans
une big trouble.
J'ai tellement hâte, ça va être bien.
Ouais, on a tous hâte. C'est quelle date déjà? Vous vous rappelez?
Le 16
18 mars.
Ah, je 18 16 mars, j'allais dire.
18 mars 2016 sur PS4. On a tous hâte, mais Il n'y a pas eu que ça.
Bah oui, la fameuse cartouche gigantesque, mais franchement, là, on ne pouvait pas faire mieux. Ah bah. C'est Final Fantasy VII Remake qui a suivi juste derrière.
Tu veux dire FF15 versus 7, non?
C'est ouais, ça, c'est ça, ouais.
Ah, alors, on c'est sent qu'il y a quelqu'un qui n'est pas pour le combat
en
temps réel.
Ah non, non, je dis pas ça, c'est juste que j'ai eu l'impression de regarder FF15. Effectivement.
Alors bon, ce qui est génial,
c'est génial.
J'ai eu l'impression de regarder Advent Children jouer comme FF15.
Ah oui.
Mais ce qui est fantastique là, c'est qu'on a enfin vu, après le petit teaser de l'E3, des séquences de gameplay. Quoi.
Ouais.
Et ça, franchement, ça fait plaisir. On a vu les personnages un peu plus longtemps, là, on voit Barrett.
Je suis pas trop d'accord avec son look.
Ce design, ouais. Pourquoi?
Bah, je sais pas, celui d'Advent Children me plaisait bien, mais là, les lunettes.
Ce que j'allais dire dans le FF7 original.
Et vous avez vu ce côté
ce
un peu Tomb Raider
donc...
là. Le côté un peu Tomb Raider quand Cloud se passe entre les murs, etc.
Ouais.
Et puis c'est
tellement beau,
cette séquence
c'est
où il marche dans une ville.
Tellement beau. Hein.
Bah là, si Midgar. Parce que le jeu va être découpé, visiblement. Il devrait être découpé en plusieurs épisodes. Donc il y a des grandes chances qu'on se retrouve avec un Midgar. Moi j'aimerais bien qu'on ait un Midgar en monde ouvert, personnellement.
Ah bah oui,
ce serait
juste
vraiment
pour
génial.
La partie.
Ce serait
pas mal.
Mais là, c'est magnifique, effectivement, quand tu vois les lumières de la ville, quand tu vois les personnages, les redécouvrir. Moi, j'ai joué 5 heures hier à FF7, puisqu'il est dispo sur le store, hein, le portage.
Ah oui,
alors,
parlons-en. Le remastered, donc, a été annoncé durant la keynote comme
tout
disponible immédiatement.
Voilà.
Et y a un
moi,
problème.
Je l'ai pris tout de suite.
Il y a un problème avec ce truc, quand même.
Un problème.
C'est ok, c'est lissé et tout, d'accord. C'est plus un peu plus
d'accord,
joli.
C'est les 10 balles, enfin les 11
mais,
balles.
Mais en 4 tiers. C'est quand même un peu scandaleux.
Ah oui, effectivement, ouais. Tu retrouves.
Mais
tu
quand
peux
tu
pas...
remaster, c'est bien de le mettre en 16/9e.
Exactement. Mais là, c'est pas possible, effectivement. J'ai joué encore une fois longtemps. Enfin, j'ai joué 5-6 heures hier. Et effectivement, c'est super de pouvoir y rejouer, mais tu te retrouves avec un écran.
Non, mais c'est affolant, quoi. Je veux dire.
C'est un peu dommage, mais une fois que t'es dedans, après, bon, après, moi, je suis.
Oui, mais enfin, on t'écrit mot remaster. Alors déjà, chez le complexe, je gueulais un petit peu tout à l'heure en disant qu'il y avait pas grand-chose de changé, mais là, un remaster, c'est le remettre.
Là, t'es en 1080p. Là,
t'es en 1080p avec deux bandes noires.
Mais avec effectivement.
C'est plus du 1080p, c'est du 640x480 amélioré à la limite, mais
ouais, c'est un peu dommage. Après, c'est quand même cool de pouvoir jouer à FF7
bah
oui, sur PS4. Mais je suis d'accord avec
je pense que sur PS3
avec tes arguments, ouais.
Et sur Vita, on peut y jouer dans des conditions qui
sont
très bonnes
depuis très longtemps. Hein.
Et depuis très longtemps. Et sur Vita, il me semble que l'écran.
Non, là, la seule différence avec la version qui est disponible depuis très longtemps, c'est que c'est donc la version PC où les graphismes étaient lissés.
Ouais, c'est lissé,
voilà,
c'est tout.
Ça.
C'est tout.
C'est
tout.
Mais
voilà,
ça reste en 4 tiers. C'est quand
bon,
même
après, il y a 2-3 petits ajouts. Tu peux activer un mode un peu rage pour accélérer le jeu voilà, quand t'es un petit peu énervé. Puis c'est tout en fait, hein, y a rien d'autre, hein, c'est le même. Hein. Mais c'est quand même agréable. Enfin, moi je me suis régalée hier pendant 5 heures. Toujours est-il que le remake fait bien plaisir à voir en tout
ouais,
cas.
On était encore dans le remake du coup. Qu'est-ce qu'on voulait rajouter sur ce remake?
Les systèmes de combat peut-être.
Oui, parce que tout le monde gueule là-dessus.
Oui, alors je comprends pas.
Moi je suis ravi.
D'ailleurs, Jérémy chez nous avait écrit un article suite à la
diffusion.
À la diffusion du premier teaser de l'E3, en expliquant que tout portait à croire dans les déclarations qui avaient été faites, etc., qu'on allait se retrouver avec un système de combat totalement différent, plus du tout au tour par tour, mais plutôt en mode action RPG, comme on a pu le découvrir là, justement, avec cette confirmation. Moi, je trouve ça très bien. Ça me pose aucun problème parce que c'est un remake. J'ai pas envie de rejouer exactement le même jeu en plus.
Il faut se mettre à la page, quoi.
Exactement.
Oui, voilà.
Il faut savoir
il y a
se moderniser.
Ans, 30 ans,
mais c'est ça.
Et je pense qu'aujourd'hui, l'ATB nous a fait plaisir pendant des années, etc. Et il est temps de passer à autre chose.
Mais bien sûr.
Ça va donner du rythme.
Et quand on pense
rafraîchir.
À un RPG aujourd'hui, on n'a plus envie que ce soit au tour par tour. Enfin, je sais pas vous.
Les gens ont besoin de liberté dans les jeux. Donc si tu leur mets
ça
à chaque fois,
ça dépend. Il y a peut-être des gens qui préfèrent encore le tour par tour et d'autres qui vont être un peu.
Mais dans ce cas-là, t'as des jeux un petit peu plus typique.
Après, l'idée, ça va peut-être venir un petit peu titiller aussi des jeux comme The Witcher 3, des RPG occidentaux qui, eux, proposent plus d'action et
plus
des Bloodborne.
J'ai surtout l'impression que, par commodité, ils ont un peu adapté le système de Final Fantasy XV.
Tout à fait, c'est exactement ça.
C'est évident parce que
l'ATB
était la norme il y a 20 ans.
Qui est très bien.
Et aujourd'hui, leur norme, ça va être justement de l'action RPG. Maintenant, il va falloir se méfier du côté action RPG parce que. Je sais pas si vous avez joué à Crisis Core sur PSP, c'était pas extraordinaire. Maintenant, on va voir si ils arrivent à bien s'adapter avec ça.
De l'eau a coulé sous les ponts depuis.
Ouais, FF15 a l'air de bien s'en sortir. Hein. Donc après,
ils peuvent
je pense que l'important, c'est de surtout respecter l'ADN de l'épisode, l'ambiance, etc.
Oui, voilà, c'est ça. Et
de ce qu'on a vu pour l'instant, en tout cas, c'est.
Ça a l'air à peu près.
Et son contenu aussi, son contenu, parce que si on se tape un couloir à la FF13 où on va faire que taper les monstres les uns après les autres,
il arrête pas de taper.
Le plus long des couloirs, quoi. Mais mais bon, pour l'instant, je trouve que ça fait une belle promesse. Et le format épisodique, moi, me dérange pas. Mmh. Ou t'attends que tout soit sorti, ou bah, voilà, c'est le plaisir.
On va tous se raquer.
On va tous se jeter sur le premier, c'est évident. Certain. Mais
il y aura saison de
bon,
passe, et puis voilà.
Donc, il profite évidemment de la situation, parce qu'FF7 est tellement attendu que.
C'est ça.
Est-ce que ce FF7 là, ils peuvent le faire en une seule fois? Peut-être qu'ils peuvent pas, tout simplement.
Bah, au vu de. Par rapport à ce que proposait l'anniversaire.
Mais le problème, c'est qu'il y a l'anniversaire là.
C'est ça.
Oui. Il va y avoir l'anniversaire, donc c'est cette année que ça doit sortir. Attends, c'est l'année prochaine.
Non.
Donc l'année prochaine. Dans deux ans. Voilà.
Donc ils ont pas encore le
temps. Dans un an.
97. Oui, dans un an et demi.
C'est ça.
Ah non, il est poussière.
Donc, il faut, à mon avis, le sortir très vite. Et le format épisodique, ça te permet de te concentrer sur le premier épisode et de lancer
c'est
les autres
forcément.
Dans la foulée.
Enfin, moi, ça me dérange pas. Regarde, par exemple, un truc qui n'a rien à voir. Non, Resident Evil Révélation 2, il était très bon.
Ça
c'était en format épisodique. Et c'était
un
super Resident, quoi.
Mais un par semaine.
C'était un par semaine. Ça allait plus vite. Ça allait plus vite.
Et le prix global.
On n'a pas eu la périodicité, là, pour l'instant. Enfin, il me semble pas qu'on ait eu d'éléments. Ce sera peut-être.
Ni le prix, etc.
Ni le prix, ni rien. Donc, on sait pas.
Resident Evil, c'était le prix d'un jeu complet au final.
Ouais.
Voilà. Est-ce que avec Final Fantasy VII, ils vont pas en profiter pour
70€ l'épisode.
Mais ça sera peut-être une question de nombre d'épisodes.
Voilà. Ah bah, je pense qu'ils savent où ils vont, ils savent très bien ce qu'ils vont faire. Et
moi,
puis,
je préfère un jeu en format épisodique bien fini, ouais, bien fait, où tu vas t'éclater, un super jeu.
Quel que soit le nombre d'épisodes et le prix.
Honnêtement, oui. D'accord. Quand j'aime un jeu, j'hésite pas à mettre le prix, quoi, et puis à patienter. Et tant pis, au contraire.
Non, mais au pire, il y a toujours le saison pass.
Il y a des limites. Pass, au pire, ouais. Oui, il y a des limites, voilà. Mais est-ce qu'ils les franchiront? On ne sait pas encore.
Justement,
on peut pas
c'est ça qu'on ne sait pas pour l'instant.
Bon, voilà. En gros, ça c'était la grosse annonce, mais c'était pas la seule annonce de
d'intérêt,
cette PlayStation Experience.
D'intérêt public.
Alors, on va dire d'intérêt, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des jeux comme Ni no Kuni 2, par exemple, qui ont été annoncés. Alors,
Ni no Kuni 2.
Ni no Kuni, c'est le jeu de level 5 associé à. Au studio Ghibli, qui était sorti sur 3DS et sur PS3,
qui avait pas trop été bien,
bah il a pas été bien réceptionné
bien reçu,
parce que
réceptionné
chiant. Parce que la poste a oublié de l'envoyer,
c'est anglicisme.
Ouais, c'est vrai, il a pas été bien reçu.
La poste a oublié de vous dire que le paquet était arrivé. Ouais.
Il a pas été laissé un truc dans la boîte aux lettres, mais bref, il a pas été bien reçu parce qu'il était un peu chiant. En fait, il était très beau.
Magnifique. Mais on dirait Candy qui pleure.
Mais bah, quand t'aimes l'univers du Ghibli, c'est fantastique.
Extraordinaire, oui,
c'est
bien, à jouer. Donc je me rappelle que Fumble par exemple avait été.
Ah, lui il adore, lui c'est un fan.
Ouais, mais il avait été très contrarié en y jouant.
Ah, oui. Je me souviens
contrarié par les bugs, par le rythme complètement lent, tout ça et tout
ça. C'est vrai que c'est beau, putain, à voir.
Mais c'est vrai qu'un Ghibli jouable, tout le monde est d'accord.
C'est magnifique.
Donc une suite,
c'est super. C'est une grosse annonce si on s'en. Si on se merde,
si on
se concentre uniquement sur l'aspect gamer, quoi, parce que au niveau grand public, c'est absolument pas le cas, quoi. Voilà.
Et il avait cartonné au Japon le premier?
Pas
cartonné,
non.
Ça n'avait pas été terrible.
Non, non, c'était un succès.
Mais là, c'est cool, justement, de tenter quand même de nous apporter quand même un
Si on prend à l'échelle level 5, non, c'est même carrément une crotte de nez pour si on regarde les chiffres de Yo-Kai Watch ou de Inazuma Eleven ou Prospector Layton.
C'est très très en dessous de ça.
Layton.
Ouais. Enfin bon,
ça c'était en fin de conférence en fait. Là, t'as fait un grand saut.
Non, mais on les fait dans
l'ordre
d'importance, on va dire. Est-ce qu'on pourrait dire que Nioh par exemple pourrait être quelque chose d'important?
Ah, ça c'est fantastique.
Ouais.
Ça
avait l'air sympa
gameplay,
encore une fois.
Ouais, c'est une sorte de Nimusha.
Ouais, carrément. Hein. C'est vraiment
de
Nimusha.
Souls, un peu mélangé.
Donc, moi il m'avait tapé dans l'œil
à
l'E3 déjà. Donc, pour rappel, c'est un jeu qui avait été annoncé il y a 10 ans, je crois.
Un peu plus, ouais.
Il y a 10 ans.
Et qui avait disparu des radars et qui est ressorti là à l'occasion de l'E3.
C'est Tecmo Koei qui s'en charge, c'est ça?
C'est ça, oui.
Ouais,
oui,
Tecmo Koei qui nous l'avait promis il y a 10 ans. Ouais.
Et
basé sur un truc
inachevé
de Akira Kurosawa.
C'est ultra sombre.
Ah, c'est ça?
Je
crois qu'on fait quelque chose.
Effectivement, t'as raison. Non, ça vient de là. Et ce qui était intéressant, c'est que là, on a vu du gameplay, quoi. Voilà.
Parce qu'on n'avait pas vu grand-chose, même au TGS.
Ouais,
avec Julien,
on
était hyper déçus parce que sur le stand, effectivement, on avait trouvé qu'une cinématique, ça tournait en boucle et puis pas de gameplay. Et là, on découvre un petit peu, effectivement, ce que sera vraiment le jeu. Et ça fait une belle promesse, quoi.
Mais j'ai peur que ce soit un peu répétitif, non? Je sais pas. Enfin, on voit que les phases de frappe, machin. Mais
pas autant que The Last of Us.
Ouais, je pense que autant que The Last of Us. Ouais. Bon, bref.
C'était ironique, hein, je le souligne, bien sûr.
On peut continuer avec Paragon. Qu'est-ce que vous avez à me dire sur Paragon?
Et bah, c'est un MOBA de Epic Games.
Voilà.
Là, ils l'ont dévoilé uniquement via un trailer, mais ça permet au moins de déjà constater que ça va être esthétiquement magnifique. Enfin, j'aime beaucoup en tout cas le design et le trailer était très bien foutu. Après, moi, les MOBA, j'en ai rien à secouer, donc
j'en ai rien à MOBattre.
Ouais, c'est franc. Oh, bravo, voilà. bravo.
Donc ouais, bah, je ne suis pas le public concerné, mais a priori ça.
C'est un peu à Halo ou à Destiny.
À Destiny, je dirais moi.
Ouais, un univers un petit peu futuriste, un peu Star Wars.
Franchement, ils ont l'air d'avoir créé effectivement un univers.
C'est vrai que c'est beau. Enfin, ceux qui aiment ça, à mon avis, ouais, ils vont kiffer.
Ah, mais donc Escombat 7 qui lui va arriver.
Ouais, il m'a totalement hypé Escombat 7.
Attention, parce que là, on passe dans la phase PlayStation VR. Il y en a des milliards de tonnes à les
jouer. On passe sur PlayStation VR tout de suite.
Si on parlait un peu de du rythme de cette conférence, que tu l'as abordé tout à l'heure en disant que on s'était plus ou moins fait chier. En fait, effectivement, après le gros moment fort, il y a eu une espèce de tunnel de jeu indé.
Un
tunnel qui a duré 3
quarts d'heure. C'était ça.
C'était trop.
Et ensuite, on est passé au PlayStation VR et là, on s'est un peu marré.
Mais attention, ça allait souvent de pair, hein, PlayStation VR, jeu indé. Hein, donc bon.
C'était un petit peu.
Oui, mais bon,
on va dire
c'était un autre temps dans la conférence où on s'est un peu réveillé parce qu'il y avait des trucs un peu rigolos. Et moi, j'ai été totalement hypé par Escombat.
C'est vrai que ça peut être sympa, ça.
Je me suis dit, mais comment n'y avons-nous pas pensé avant? Mais c'est un jeu idéal pour le PlayStation VR.
C'est clair.
Pour la réalité virtuelle. Parce que souvent, les développeurs te disent, et d'ailleurs, je crois que Sony demande aux développeurs de privilégier les jeux qui se jouent assis avec la réalité virtuelle. Parce qu'évidemment, on n'a pas tous le même intérieur, le même salon. Certains d'entre nous habitent dans des 8 mètres carrés,
enfin,
tout ce que je veux dire. Il faut que tu puisses pouvoir jouer
on a tous la même passion, mais
assis. Et en même temps, le PlayStation VR peut quand même gérer la profondeur. Donc, par exemple, si tu t'avances, tu t'avanceras ton regard dans le cockpit, etc.
Non, mais surtout, ce qui est génial, c'est avec le casque, le HUD que tu affiches directement là.
C'est ça.
Donc, c'est comme dans les vrais cockpits.
Non, mais tu auras ta manette dans la main. L'avion et tu regarderas partout.
Exactement, t'auras plus qu'à bouger la tête.
Ça sera tout à fait naturel et ultra immersif.
Par contre, faudra acheter le manche à balai, le machin à 650€.
Bien sûr.
Pour faire plus réaliste.
Bah oui.
Avec le casque VR, évidemment.
Donc là, tu vas raquer. Ce sera peut-être pas une obligation, quoi. Déjà, si t'es complètement immergé dans ton.
Peut-être qu'avec un PlayStation Move, ça peut marcher.
Oui, non. Je pense pas, non. Parce que toutes les commandes qu'il y a dans un avion comme ça, je peux te dire.
À part ça, sur PlayStation VR, moi, je retiens deux trucs quand même. Qui m'ont fait trop marrer.
C'est vrai.
C'est Job Simulator.
Non, mais sans rire. Sans rire.
Mais en fait, vas-y, raconte un peu parce que moi, je t'avoue que j'ai vu le titre et j'ai loupé parce que je suis passé sur.
J'ai vu le titre et je suis parti.
Alors, mais c'était quoi? Moi, j'ai pas compris. Tout
est dans le titre, mec.
Non, mais c'est quoi ce truc?
Et bah, le principe.
Qu'est-ce que c'est que ça?
De travail?
C'est un simulateur de job à la con.
Non, mais avec le casque VR?
Oui. Bon, mais est-ce que tu te rappelles?
C'est un jeune simulateur. Est-ce que tu t'en rappelles?
De quoi?
C'est un jeune simulateur.
Bon, est-ce que tu te rappelles d'un autre jeu qui s'appelait en japonais Ore no Ryori?
Ah oui, le jeu de cuisine.
Le jeu de cuisine, bien sûr.
Qui était génial. Oui, c'est-à-dire, tu devais gérer ton resto, mais il fallait faire couler la bière dans le verre, servir les yakisoba, et tout était fait avec les sticks analogiques de la DualShock, effectivement. Bah là, en fait, c'est un peu.
Tu fais quoi?
Et bah, tu remplis
des trucs. Tu vas dans les agences, tu remplis des trucs.
J'ai vu que tu pouvais bosser dans un bar.
Tu fais des petits boulots d'abord. Au début, puis après tu
viens. C'est vraiment trop marrant.
Bon,
ça
va être complètement con, hein, je pense. Mais,
ouais, mais c'est
ça va être bizarre.
Mais ça m'a fait marrer. Et le truc, mais alors, totalement.
Ça peut entraîner les gens à essayer de se motiver et chercher des
choses. C'est ce que j'ai dit, c'est peut-être pour les feignants.
Ah, c'est
peut-être
pour ça que tu t'es fait rabrouer.
Mais ouais, il y a un mec qui me dit sur Twitter pas tout le monde a choisi d'être au chômage. Mais les feignants, ceux qui n'ont pas envie, voilà. Et ça peut effectivement donner envie de faire des choses. Bah oui.
Ça peut être une application de vrai taf.
Bah, c'est rigolo.
Et moi, dans Shenmue, j'adorais déplacer des caisses, donc
C'est ça, quoi.
Avec la grue là, enfin le truc.
Alors après,
et dans Planet Side, de conduire le bus, quoi. Donc
l'autre truc qui t'a fait marrer, donc Julo.
Je pense qu'il a fait marrer tout le monde parce que c'est quand même n'importe quoi.
Ah,
c'est
oui.
Undead Fit Robot Golf.
Alors ça
c'est fantastique.
Alors le pitch, c'est quoi?
Le pitch, c'est ils défoncent tout ce qu'il y a sur leur chemin pour pouvoir faire des parts tranquillos. Je crois que c'est ça le pitch.
C'est ça. Donc déjà, t'incarnes des robots géants, mais pas pour te transformer en avion et faire des séquences.
C'est pour jouer au
golf. Ils ont comme seule arme dans la main un club de golf géant.
Ils
défoncent tout autour d'eux, les immeubles, les machins,
juste
etc.
pour faire des greens et tout ça.
J'ai l'impression.
C'est ça, hein, le pitch, c'est ce qu'ils disaient.
Mais ils se battent entre eux aussi, avec leur canne de
golf.
Oui,
c'est ça.
Leur club de golf. C'était horrible. Mais donc, ça a l'air fun.
Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
Je sais pas, mais j'ai trop envie de
savoir. Typiquement japonais. Non, mais c'est pourri.
C'est parce que c'est pourri que ça a l'air génial.
Pourri de chez pourri.
Ce qui est sûr, c'est que j'ai très envie de voir ce que ça donne. Mais
j'ai pas envie d'acheter cette merde.
Pas forcément pour des raisons purement ludiques.
Et donc, dans cette partie VR, il y avait aussi Golem.
Golem,
ça a l'air fantastique.
Carole, qu'est-ce que tu peux me dire?
Carole Candena.
Écoute, ma foi, je trouve que ça a l'air bien sûr fantastique.
Eh ben, c'est incroyable, la Maïté.
Un univers incroyable, bien sûr, sombre et mystérieux. Écoute, ça a l'air assez incroyable. Effectivement, on a vu une jeune fille avec des tresses. C'est là qu'on a pu se rendre compte qu'elle était aussi dans la peau d'une sorte de robot. Peut-être pas un robot, mais une sorte de
un
grand
golem.
Troll, un golem, voilà. Et Et effectivement, t'as l'impression donc elle bouge ses bras, elle bouge ses mains, elle fait les mêmes. Donc du coup le golem fait exactement les mêmes mouvements. Donc effectivement, on comprend qu'elle l'incarne, qu'elle est dans son corps. Et effectivement, ça a l'air très sombre, très particulier comme univers. Là, on voit les images.
Là pour le coup, c'est un jeu qui a tapé dans l'œil pour les bonnes raisons.
Hyper alléchant, ouais.
Ouais. Sympa.
Donc
faire trépice ou pas. On verra.
Donc moi c'est vraiment peut-être le petit coup de cœur justement de cette partie.
Qu'est-ce
cette
qu'on a comme autre info sur ce jeu?
C'est qui déjà
sortie,
Golem? Qui a fait Golem?
Je sais plus qui c'est qui a annoncé Golem.
C'est un jeu indé
aussi,
Golem, ça, c'est
Royal
pas...
non
c'est, go... c'est... Oh.
Ouais, désolé. Hein.
Oh, fantastique.
Bah excusez-moi. Hein, il
ah non non, elle est très bien, elle est très bien.
Ouais, mais bon.
C'est fantastique.
Ne change rien, ne change rien.
Change rien.
Bon bref,
à part tes lunettes.
Vous irez voir sur Gameblog si vous avez les infos que on n'a pas tout de suite concernant sa date de sortie.
Je crois que c'est Kojima qui l'a fait.
C'est le studio qui s'en occupe. Autre chose côté VR qui vous a.
Eagle Fly.
C'est la simulation de.
Flight, ouais, Ubisoft, effectivement,
ça.
Avec un petit côté Assassin's Creed, effectivement.
Bah c'est,
mais...
en fait, c'est ça hein. auquel j'ai joué à l'E3, à la Gamescom.
C'est un spin-off.
Ah, mais oui, alors tu as joué, toi, alors
ouais, bah c'était juste, il fallait pencher la tête, bouger la tête pour regarder où on voulait aller.
Ah, immersion de l'astronef.
Bon, la pencher,
ça, là,
la pencher pour plonger ou la lever pour aller plus haut. C'était assez rigolo à ce moment-là, mais c'était pas très joli. Je sais pas ce que ça a donné là dans cette démo.
Bon, on a rien vu, on a pas vu grand-chose.
C'était pas dingue graphiquement, c'était juste la promesse de voler dans les yeux d'un aigle quoi.
En gros c'est l'aigle qu'on voit dans Assassin's Creed au début.
C'est ça, c'est le début d'Assassin en fait.
Mais ils ont fait un spin-off avec ça quoi.
Voilà, ils l'ont repris en fait.
Ouais, et pourquoi dans ce que j'avais essayé, on pouvait shooter.
Mais parce que, en fait, c'est tout simple. Pourquoi
faire ça?
Mais non, mais pourquoi Eagle Flight? Et on peut dire la même chose de pourquoi.
Parce que l'être humain a toujours rêvé de voler, c'est ça? C'est vachement philosophique en fait.
Non, c'est pas ça, c'est que
si vous voulez bien promouvoir.
Si vous me laissez parler, je vais vous le dire.
Non!
On se croirait dans un débat politique. Non, c'est simplement que la VR aujourd'hui c'est au stade embryonnaire,
oui, bah
et que
oui.
et les gens font
tout,
des tests quoi.
Oui.
Voilà,
non,
et en gros, il y a des trucs qui sont pas vraiment des jeux. Tu veux dire
qu'ils seraient
capables et...
Tu veux dire qu'ils seraient capables de nous vendre n'importe quoi pour...
C'est ce qu'on appelle des démos techniques en fait.
C'est un peu, c'est exactement
40
ça.
Euros.
Ouais. Et dans quelques années, enfin dans 10 ans, 20 ans, on se souviendra des débuts.
Voilà.
Pour l'instant, les gens testent un nouveau métier.
On pouvait juste faire ça.
C'est pour ça que moi je dis, contrairement à ce que dit Julien, oui effectivement, ça va être génial la VR et tout. Mais moi je pense que dans 10 ans, ça sera mieux que ce qu'on va voir dans un an ou deux
c'est
ans.
Sûr.
Là,
ah bah,
ça va,
c'est sûr.
Hyper embryonnaire, on n'a rien quoi. On n'a que dalle.
Mais par contre,
c'est pour
ça
que je l'attends pas tant que ça, mais
ça
dans 10 ans, ouais.
Pour moi, ça va devenir vraiment, même au-delà du jeu vidéo, hein, ça va devenir notre quotidien. Ouais. Et d'ailleurs, ça fait un petit peu peur.
C'est vrai. Je crois que t'as un casque.
On en a parlé des dizaines de fois dans ce podcast.
Ouais. Je pense qu'on pourra aller au boulot en volant justement. Tiens, je vais prendre mon aigle.
Ouais, je sautais par la fenêtre.
Il n'y a pas eu que ça. En VR, il y a eu évidemment. On peut aussi revenir sur le tunnel un peu qui a été accordé à Tim Schafer et à Double Fine. Alors,
mais
y a,
oui,
y a
mais c'est très bien. Tim Schafer, c'est mon idole.
Psychonaut, s'appelle
c'est
comment
ça.
In the Rumble, of Ruin.
Voilà. VR
ouais,
aussi.
Ouais.
Qui donc était encore un jeu Double Fine. Double Fine qui a confirmer une date pour Devs Attend Tagle Remastered.
Oui, c'est en mars 2016.
Qui arrivera en mars 2016 et Full Throttle.
Jeu de Full Throttle Remastered, alors ça je suis vachement content.
Ouais, jeu de 95
voilà.
Qui est très difficile à trouver.
Il y a 30 ans.
C'est
était très difficile à trouver sur PC, je crois que sur GOG il est disponible maintenant.
Ah peut-être,
mais
moi je me souviens d'avoir fait à l'époque, effectivement.
Ouais.
C'était
un jeu
très,
extraordinaire
très bien,
avec un biker.
Un biker improbable au temps du western.
Pourquoi faut pas Maniac Mansion
dans le désert?
Parce que ça demande peut-être un petit peu trop de ressources à refaire.
Ah bon?
Ouais.
Bah
c'est pas enfin
non, il va faire un Maniac Mansion like avec
ouais, Thimbleweed Park ouais.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Mais
ça va être pareil.
Mais Maniac Mansion
c'était
en fait
bien.
Le problème de Maniac Mansion, si tu veux que je te dise la vérité, c'est
ah bah c'est que j'ai bloqué à un moment du jeu.
Bah voilà, tu pouvais être bloqué. Et à partir d'un
j'ai jamais bloqué
de je ne sais plus quel ouais. jeu de...
En tout cas, des The Tentacle qui passe là en
je sais plus
vidéo,
à partir de quel jeu Lucasfilm on ne pouvait plus être bloqué, ils ont compris.
Bah ça serait
mais alors attends, Day of the Tentacle, c'est la suite de Maniac Mansion.
Oui, c'est ça, ouais.
Ouais.
Mais c'est un autre calibre, hein. Maniac Mansion à côté, t'as l'impression qu'il avait 50 ans de retard. Hein.
Ah bah oui, oui.
C'est le jour et la nuit. Il sort sur 84 ou 85.
C'est,
donc,
c'est super vieux.
La différence graphique est énorme.
On sort des dossiers là, mais c'était génial.
Oui, mais c'est bizarre, c'est bizarre de faire le remaster de la suite
l'intérêt
et pas
du
les
jeu,
originaux.
Oui, oui. Bah, peut-être que dans le jeu. Attends, est-ce que dans le jeu, il n'y aura pas une borne avec jouer à Maniac Mansion?
Peut-être.
Un peu comme ils avaient fait avec Flashback.
Mais
alors, si
Ron Gilbert,
voilà, exactement.
Dans Flashback, il l'avait fait, effectivement, tu avais une borne et tu rejouais à l'original.
Je pense
qu'il peut faire ça. Excellent jeu au passage.
Mais là, Day of the Tentacle, c'était Tim Schafer, mais Maniac Mansion, c'était Ron
Gilbert. Oui, c'est vrai que c'était Ron Gilbert.
C'était pas exactement.
Peut-être qu'il a pas les droits.
Il était pas d'accord. Tout bêtement. On en a oublié un en VR, c'est Res Infinite.
Ah putain,
oui,
voilà, ça c'est une grosse annonce quand même.
Ouais. Ouais, ouais,
enfin, c'est une grosse annonce pour les gamers encore.
Bah, Mizuguchi arrive
pour,
sur scène avec ses 48
anciens,
capteurs
pour les anciens
le corps,
gamers.
Oui, effectivement.
Mais c'est fait pour ça quoi.
Oui, c'est ça, exactement. Ça colle très très bien avec le PlayStation VR, enfin le casque virtuel aujourd'hui.
Sauf qu'avec du jeu, on se posait la question, et effectivement, tu avais raison. Comment est-ce qu'on va pouvoir.
Bah, tu vas orienter ton casque.
Ouais, à mon avis, ça va être chiant, justement. Mais bon.
On va mettre une chaise au milieu du salon.
On va être en mode torticolé au bout d'un moment.
C'est sur le ventre.
Tu m'étonnes.
Je sais pas, parce que je pense que ça peut se calibrer. L'amplitude peut se calibrer.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Oui, et peut-être je pense que ça correspond très très bien à ce que faisait Rez justement.
En tout cas, ça va être l'immersion va être géniale du coup, quoi. Parce que déjà, c'était un jeu à zone, quoi. Tu rentrais dedans et tu passais dans un autre monde très rapidement grâce à la musique et les graphismes.
Et puis là, pour les gamers, c'est carrément.
Même pour les
DJ,
Daft Punk, ils vont récupérer ça, ils vont faire des vidéos comme ça sur scène et tout.
Non, mais attends, c'était dingo comme expérience.
Non, mais c'est top.
La question, c'est est-ce qu'ils vont faire le vibrateur là?
Bah non, mais peut-être que la combinaison est avant vous. Parce que normalement, il est censé avoir des capteurs sur lui et ça vibre en même temps.
Bah ça va être ça avec PlayStation VR.
En fait, il y aura des manettes géantes, des combinaisons.
Effectivement, voilà, des combinaisons, on aura plein de.
Attends, mais s'ils font ça, je l'achète direct.
Plein de matos, ça va être.
Déjà parce que c'est la classe. Et puis
ah ouais, voilà. Que pour ça quoi.
Mais c'est clair.
Ah, tu sais. Non, mais c'est pas que la classe. C'est que si t'as les vibrations partout.
Ça, pour avoir les yeux défoncés à la fin, franchement, au secours. Moi, ça me fait un peu peur, hein, mais bon.
Bon,
tu sors de là, t'as
qu'est-ce
les yeux,
que vous retenez d'autre à part Yakuza 5 et 0 qui vont arriver en Europe. Salut Romain, on espère que t'es content de cette annonce.
Ah bah, Romain, il est content, bien sûr.
Bon, il est blasé, Romain, il s'en fout maintenant.
Ah bah, il y a eu KOF 14.
On a eu du Street Fighter 5
avec le personnage Fang, machin.
Il y a eu un gros tunnel de jeux indés. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'on a envie d'en savoir plus. Mais dans cet énorme listing de jeux qui a été présenté sous la houlette de Gio Corsi, qui est un grand défenseur de la PlayStation Vita, il faut le savoir.
Défenseur.
J'avais noté tous les jeux, mais il y a une liste
oui,
incroyable.
Pas mal de jeux qui sont adaptés déjà de version PC.
Il y a Don't Starve Together aussi, qui peut être
Invisible
pas mal.
Invisible Inc.
On a eu aussi effectivement l'annonce du mode course de passereau pour Destiny. Ça va un petit peu rafraîchir effectivement le gameplay de Destiny, puis ça va être une compétition
qui va durer trois semaines.
Ça c'est vraiment cool pour les fans de Destiny, puis ça va effectivement.
Et
ça va
gagner quoi?
Alors je sais pas chocolat. Du tout ce qu'il y a à gagner.
Oh, bah, ça vrai. Va être du loot.
Mais
je pense que
ça doit être ça pour les persos, leurs personnages de Destiny, et ça va être cool. Ça fait un peu penser à Star Wars quoi. C'est des courses de speeder quoi. C'est un peu.
L'Asgardienne, on en parle ou pas alors?
On peut parler tout ce qui n'était pas là. Hein.
Bah,
L'Asgardienne n'était pas là.
God of War 4.
God of War, Horizon,
L'Asgardienne, il sortira jamais, laisse tomber.
Arrête!
C'est pas possible maintenant. C'est
Horizon, il sortira jamais.
Pareil.
C'est ça que tu es en train de nous dire? Bah, non, oui. Il n'était pas là non plus, God of War.
Il y avait une grosse rumeur comme quoi c'était sûr, il était là.
Mais oui, c'est bizarre. Un mini teaser passé il y a quelques semaines dans
même chez Sony,
vidéo,
ils nous ont dit si, il y sera et tout.
Ouais,
enfin, chez Sony France
aussi, ils nous ont dit ça l'année dernière.
Chez Sony France,
2014.
Bah, ils sont pas bien renseignés, alors c'est quand même incroyable.
Ouais, ou alors ils se foutent de nous tout bêtement.
On en a même pas appris plus sur le prochain jeu de Santa Monica Studio. Il y a rien eu de plus.
Ah oui, c'est vrai.
On pensait justement en savoir plus puisqu'on avait eu le. Rien du tout.
Il y avait pas chez nous 3.
Non,
mais on aurait pu avoir une petite vidéo.
Ce sera à Monaco en février, je pense.
Bon, qu'est-ce qu'il y avait dans ce PlayStation Experience?
Bah, après le reste,
j'ai envie de vous dire que pour le
reste, on va se fier aux vidéos que Julien et Romain nous envoient directement depuis San Francisco sur la PlayStation Experience. N'hésitez pas à aller voir, il y a des choses très intéressantes. Je crois qu'ils ont joué à pas mal d'expériences VR justement.
Et d'ailleurs, ils ont montré le casque avec le fameux boîtier.
Ah oui, oui, avec le petit boîtier qui va prendre un petit peu, qui va un peu soulager la PS4 en termes de puissance et qui va permettre justement ce qui est une image sur la télé, une image dans le casque.
Par contre, ce qu'il dit pas, c'est que le boîtier pèse 25 kilos. Ça, c'est génial.
Ah, voilà.
Non, je déconne.
La tête de Julo.
La tête de Julo, tout d'un coup.
Comme ça, il reste.
Et donc,
ça.
Si on fait un bilan juste de la keynote du PlayStation Experience, plus jamais ça.
Je suis vraiment déçu. Ils ont, pour moi, le rythme n'était pas contrôlé. Ils ont balancé leurs deux grosses cartouches dès le début. Moi, j'aurais aimé, à la limite, si c'était comme ça, voir du Uncharted 4 au début et terminer avec du FF7. Là, au moins, les gens ça aurait été une terminaison. Ça aurait été une fin en puissance. Là, franchement, ça a été le. C'est dommage.
C'est vrai que plus on avançait, plus on s'endormait.
C'était un peu dommage.
Bah après, il y a plein de jeux bons indés. Il y a bien de jeux indés très bons.
Mais est-ce que c'est pas un peu trop. On va peut-être faire un truc général, mais le PlayStation Experience et les Game Awards, est-ce qu'on en attend pas trop par rapport à ce qu'il y a déjà eu cette année?
Il y a tellement de salons, tellement de trucs. PlayStation Week.
Est-ce que c'est pas trop aussi de vouloir faire absolument une keynote.
Le vieux lapsus.
Une keynote absolument pour le PlayStation Experience, alors que ça devrait pas être peut-être indispensable?
Non, mais moi je pense. Non, mais le, par exemple, les Game Awards, on pourrait attendre d'eux qu'ils nous dévoilent des séquences de gameplay de, des jeux attendus pour le début de l'année.
Bah, je trouve que c'est pas
sur lesquels on est super
chaud. Awards.
Bah, si.
Les Game Awards, c'est des remises des récompenses. Hein.
Oui, oui, oui. Oui bien
c'est,
sûr.
Des, c'est du bonus. Hein, le,
oui, mais pas,
qui,
ils en ont fait
plus,
justement
hein.
Un événement au-delà de ça.
C'est vrai qu'on s'attend maintenant à ce qu'il y ait ça, mais bon.
Avec des World Premiere.
Voilà, en te teasant des World Premiere, etc. Donc, si ça avait été une séquence de gameplay d'Uncharted, une séquence de gameplay de Quantum Break, etc., ça aurait été vachement mieux.
Non mais comme ils disent, comme les studios le disent, faire des séquences comme ça exprès, des démos machin, ça prend un temps mais fou.
Et concernant le PlayStation Experience, je trouve que c'est avant tout un problème de rythme. Non, parce que quand tu fais on n'a pas parlé du nouveau personnage de Street 5 aussi. Ah, oui.
Si si, bon, on l'a dit tout à l'heure.
On l'a dit, pardon. Je devais être en train de dormir.
Ouais.
Je pense.
Non mais le problème c'est qu'ils ont fait un énorme tunnel de jeux indés. Tu sais d'habitude dans les conférences Sony, les jeux indés ils sont tous regroupés dans une espèce de clip.
Voilà.
Ils disent et regardez ce qui arrive aussi sur PlayStation 4. Et là t'as une musique avec tous les,
non, mais
les titres qui passent les uns après les autres.
Dessus, ils les mettent vachement en
avance.
Ouais.
Non
mais là c'était
bien.
Peut-être trop. C'est-à-dire qu'on aime tous les jeux indés.
Pas tous non.
C'est des jeux qui apportent de la fraîcheur etc. Mais dans une conférence. Faire un tunnel avec que
ça.
Ça
fait trop. C'est trop.
Pendant, je sais pas, c'était limite 3 quarts d'heure.
Franchement, ouais, moi j'ai l'impression que c'était plus qu'une heure. Mais...
Parce que bon, on retiendra quand même qu'on a vu pour la première fois du gameplay de FF7 Remake. Quoi.
C'est tout, mais voilà.
Qu'on a vu un nouveau personnage de Street qui a l'air cool. Qu'on a vu une nouvelle séquence d'Uncharted. Qu'il y a un truc Destiny qui a été annoncé. Qu'on en a vu un peu plus sur les jeux VR. Mm-hmm. Qu'il y a Ni No Kuni 2 qui a été annoncé.
Il y a
Ace Combat 7, etc. Non,
donc, honnêtement, il y a eu quand même pas mal de choses.
Si
hein,
tu
quand
fais un petit listing des trucs cool, tu dis, putain, ça devait être pas mal comme conférence. En fait, quand tu l'as regardé, tu t'es fait chier à cause du rythme.
C'est ça.
À part 2-3 jeux 1-2 qui sortaient du lot, genre Golem notamment.
Golem, ouais, vraiment mangé.
Et on voit Ratchet & Clank.
Oui,
merci Poufy, heureusement qu'il est là.
Heureusement là Poufy, à la réalisation.
Team Ratchet, voilà.
Ça c'était top.
C'est génial les
Ratchet.
Les jeux
bien,
sont tellement beaux.
Et alors ce qui est marrant
fois.
C'est que celui-là il revient aux sources, on a vu la première rencontre entre Ratchet et
Clank.
Mais c'est
pas plus mal, c'est pas plus mal.
Et c'est très bien. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a le film d'animation qui sort. Donc en fait ce jeu va être le
basé
jeu
basé sur le film basé sur le jeu.
Voilà, le jeu basé sur le film basé sur le jeu. Voilà.
D'accord, et ça s'annonce
bah, ça cool,
très bien. Comme toujours très bien avec Insomniac quand ils se mettent
bah,
sur.
Ils maîtrisent énormément
sur Ratchet & Clank,
mais là,
toujours des armes complètement folles.
Voilà. Mais leur gameplay
c'est
et leur rythme,
c'est
justement.
Fin et tout, c'est
voilà.
Beau. Enfin,
il y a
c'est...
toujours
je me rappelle
un super
rythme. D'une arme, c'était la boule à facettes qui faisait que tous les ennemis se mettaient à danser. Et
on la voit dans la vidéo normalement.
C'est vrai ? Ah, bah c'est génial.
Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que les PlayStation Experience. Donc il y a plus de 5000 personnes qui sont là, ils sont là pour jouer aussi. Hein. Pour eux c'est génial. Tous les jeux sont à dispo et tout.
Ah mais nous on parlait que de la keynote là après.
Oui, tout à fait.
Pour les jeux.
Pour nous de loin peut-être que ça fait un peu bizarre mais.
Pour les jeux.
Je suis super content là-bas sur place ils jouent.
Pour les jeux évidemment comme je vous le disais, il y a les vidéos de Romain et Julien.
Exactement.
Voilà. Bon et bien maintenant, j'ai envie de dire comme chaque semaine, Julo, Traz et Carole, et bien on va faire. Un petit passage par le côté hors-jeu.
Exact.
Et vous avez chacun et chacune.
Il n'y a pas que le jeu dans le jeu, dans la vie.
Des livres, des BD, des comics, des films, des séries, des expos même peut-être dont vous avez envie de nous parler. Et on va commencer par toi, Carole, qui a un livre.
J'ai un livre.
Un livre.
J'ai
alors ça se lit.
En ce moment, non, c'est pas celui-ci.
Ouais. Non, c'est pas celui-ci effectivement.
Ce sera Jeannère.
Ah, ce sera
Jeannère de Charlotte Brontë.
Alors
que tu avais déjà lu ou pas?
Que j'avais déjà lu.
Combien de fois? 25 fois.
Effectivement, je l'ai lu 2-3 fois. Jeannère, c'est vraiment un roman passionnant et passionné, plutôt destiné à un public féminin, mais ça peut plaire aussi aux hommes. Alors je ne sais pas si vous connaissez les sœurs Brontë, Émilie, Charlotte. Il y a eu d'autres sœurs aussi qui malheureusement ont connu un destin un peu plus funeste. Voilà, je vais te laisser
montrer.
Donc Jeannère. C'est un livre qui est sorti alors la date exacte je sais plus, mais la première édition c'était en 1800 quelque
ouais,
chose.
Oui, c'est le 19e siècle.
Exactement.
Il n'y a pas de chanson d'ailleurs, ne pleurez pas Jeannette.
Non, c'était Jeannette, mais c'est sympa d'avoir essayé. Écoute, ça a été un roman qui a vraiment eu un immense succès tout de suite, plus que par exemple Léo de Hurlevent de sa sœur Émilie. Et effectivement, le roman avait été refusé. Son roman précédent, Le Professeur, avait été refusé 7 fois par des éditeurs. Elle n'y croyait plus. Elle s'est lancée avec Jeannère et ça a cartonné. Et c'est l'histoire, un petit peu son histoire hein, qu'elle raconte. C'est l'histoire d'une jeune fille qui n'est pas très jolie, mais qui a beaucoup de caractère, qui n'a plus de parents, qui reste habitée avec sa tante et ses cousins. Alors sa tante est méchante, ses cousins aussi. Elle se fait un petit peu... comment dire, elle se fait
malmenée,
très bien, c'est le mot que je cherchais. Et donc, elle finit par être envoyée dans une pension très austère, où on va lui apprendre les bonnes manières, ça va être très difficile. Et donc, dans cette pension, elle va se faire des amis. Alors, je vous raconte pas toute l'histoire, parce que je ne veux pas spoiler, au cas où vous voudriez le lire. Mais effectivement, elle va avoir 8 ans dans cette pension très difficile, donc quelques années en tant que professeure, hein, puisqu'elle va devenir une femme. Mmh. Effectivement, elle va vivre des choses assez difficiles, puisque dans cette pension, on va dire qu'il y a une insalubrité innommable. Donc, elle va perdre des amis, ça va être difficile. Et puis, un beau jour, elle va vouloir, s'émanciper, s'épanouir, et elle va quitter cette pension pour aller travailler comme gouvernante, puisque c'est l'histoire d'une gouvernante finalement, hein, Janer. Et elle va rencontrer Monsieur Rochester. Pour qui elle va se découvrir un amour sans limite. Donc voilà, c'est plutôt une histoire d'amour, Janer, mais très difficile, avec pas mal de rebondissements. C'est un gros livre. Hein.
Ça se passe en Angleterre.
Ça se passe en Angleterre, exactement, non loin de Londres. Il y a presque 600 pages. Et c'est vraiment une très, très belle histoire. Et effectivement, Charlotte Brontë, tout comme Emily, a vraiment une très, très belle plume. Mm. C'est vraiment un beau roman, très prenant, assez sombre, mais avec plein de beaux moments. Donc voilà, je vous le conseille.
Très bien.
Fortement.
On va passer à quelque chose d'un peu plus léger, on va dire, avec Traz. Puisque toi, tu nous parlais du dernier album d'Astérix.
Astérix, c'est
bon, ça.
Papyrus de César, 36e album. Donc, de Conrad et Ferry.
Mm-hmm. Qui ont bien repris.
Qui ont super bien repris après Astérix chez les Pictes il y a 2 ans. Que j'ai pas fini de lire parce que je sais plus où il est. Chez moi, et je l'ai perdu. Donc, alors... avec ce papyrus-là, je peux pas tout vous raconter parce que sinon je dévoile tout. Mmh. Mais voilà, ils sont.
Le nœud de l'intrigue, qu'est-ce que c'est ?
Le nœud de l'intrigue, en gros, c'est un papyrus où César a écrit ses mémoires, on va dire. Uh-huh. Et il avoue qu'il a conquis toute la Gaule, sauf l'Armorique, machin. Et il y a un Julian Assange de l'époque, d'ailleurs, il a été un peu.
Croqué
dans cette BD. En référence à ce au fameux gars des WikiLeaks, voilà, et qui a exfiltré ce papyrus et qui l'envoie, enfin qui l'amène aux irréductibles gaulois pour leur dire qu'il faut absolument qu'ils gravent ça dans le marbre via un druide qui connaît tout, etc. machin, pour que ça se perpétue de oralement en fait, comme la tradition gauloise le veut. Mmh. Et du coup ensuite les sbires de César vont tout faire pour récupérer ce papyrus, parce qu'évidemment il ne faut pas que ça filtre ça, il ne faut pas que ça reste dans l'histoire que César a conquis toute la Gaule sauf l'Armorique, donc. Et donc il va y avoir évidemment des péripéties dans tous les sens.
Il mange des sangliers,
des nouveaux personnages, il mange des sangliers.
Ça parle réseaux sociaux aussi, hein, si
ça
j'ai bien compris.
Sociaux,
les irréductibles gaulois, ça lutte encore
le thème actuel de manière.
Ouais, ils ont toujours dans les trucs.
Le côté anachronique,
exactement.
Et les blagues anachroniques.
Ça toujours. Donne bien envie, j'ai bien envie de me remettre.
Et c'est vraiment,
BD.
Vraiment bien, hein, vraiment. J'avais un petit peu peur, moi, que avec cette nouvelle, ces nouvelles versions de Ferry et Conrad.
Je crois que t'as
mais honnêtement,
scotch.
Ils sont parfaits, c'est un duo qui fonctionne très bien, et j'espère qu'ils vont en faire comme ça tous les 2 ans. Pour moi, c'est le rythme idéal pour un nouvel Astérix. Voilà. C'est dommage que Tintin n'ait pas voulu que ça continue. Mais... En tout cas, Astérix, franchement, là... C'est comme à la grande époque, bon, peut-être pas comme à la grande époque de Goscinny Uderzo, mais en tout cas on s'en rapproche là, ils commencent
c'est
à prendre leur marque.
Tu penses qu'un jour ils feront aussi bien qu'Astérix en Corse ?
Non,
en Corse.
Je pense pas.
Ouais, parce que celui-là c'est
tu
le
sais
de...
que
c'est impossible. Enfin, je vois pas les faire à ce niveau-là. Surtout qu'ils les modernisent et tout, comme tu disais, Julo. Ils sont vraiment à notre époque maintenant.
Pour Astérix en Corse, ils se sont inspirés d'un personnage réel hein, qui vit là-bas. Qui est...
Oui, tout à fait. Mais même les petits vieux étaient existants sur les bancs, tout ça.
Voilà, et enfin, moi je l'ai rencontré. Ouais. Il travaillait dans un resto en Corse.
Ah ouais.
Et quand je l'ai vu, j'ai fait putain, c'est le mec d'Astérix en Corse.
Et non, mais les références, elles sont.
Ah non, mais c'est fantastique. Astérix Obélix, la Serpe d'Or, il était génial.
Ils sont tous bien, le chaudron, Arverne, tout ça. Enfin bref. Donc voilà, bah, je vous le conseille, hein, 36e album, allez-y.
Je vais l'acheter à mon papa
très, très
pour
bon.
Noël, tiens, je pense.
Bah, c'est un, okay, c'est un beau cadeau. Ouais.
Très bien, ben, Julo.
Oui,
toi,
alors moi, excusez-moi,
toi,
je vais dans un truc, mais alors.
Excusez-moi, je voulais vous dire.
Beaucoup moins bisounours.
Alors,
j'ai envie de dire que tout ce que
des
vous
élections
avez
régionales
jusqu'à maintenant.
Oui, c'est encore du Netflix, dis donc.
Oui,
c'est incroyable.
Alors, effectivement, je me suis lancé dans la récente. Hein ?
Non.
De quoi ?
Une série porno, non, t'as pas dit ?
Non, pas encore, pas encore, ça viendra. Donc sur la récente série à succès de Netflix qui s'appelle Narcos.
Quelle classe.
Et je vous le recommande, mais alors, vraiment chaudement, c'est génial. Le personnage que vous voyez à l'écran, c'est qui? C'est Pablo Escobar.
C'est Didier Bourdon.
Pablo Escobar. Voilà.
C'est Pablo Escobar. C'est vrai qu'il ressemble. Et en fait, cette série, donc qui s'appelle Narcos, s'intéresse en fait à toute l'histoire de la traque d'Escobar.
Qui était le plus gros baron de la drogue colombien.
Bah alors, c'est ça qui est génial, c'est que ça te raconte aussi toute une période de l'histoire de la drogue et du trafic de drogue.
Toute mon enfance.
C'est-à-dire l'invention de la cocaïne presque, le moment où ça a été intégré aux États-Unis par le biais de Miami. Mmh. Et comment Pablo Escobar, qui était juste qui faisait de la contrebande, pas du tout, pas vraiment de la drogue à part de la marijuana, qui était vraiment la drogue de l'époque, donc c'est fin 70. Et tout ça, c'est vu à travers les yeux et l'histoire
les années 80 aussi,
d'un flic de la DEA, donc les stupes aux États-Unis. Qui raconte, et c'est ça qui est génial, c'est que je vous disais, c'est l'histoire de la traque de Pablo Escobar, mais en fait c'est toute l'histoire depuis le tout début. Ah ouais. C'est-à-dire le moment où aux États-Unis il y avait que de la beuh et que la cocaïne est arrivée par le biais de Pablo Escobar. Voilà. Et comment est-ce que Pablo Escobar s'est mis à faire de la cocaïne?
C'est quoi, un peu Blow, quoi, le grâce... film. Hein? Je sais pas si tu t'en souviens, le film Blow avec
Jonathan.
Oui. Oui. C'était sur l'histoire de
l'histoire de
la cocaïne aussi. Ouais. Ouais. Et je l'ai pas vu Blow, donc je pourrais pas te dire.
Tu devrais le voir voilà. Si ça te plaît.
Mais là, dans une série, du coup, il doit être vachement plus complet aussi.
Mais en tout cas, ce qui est marrant, c'est que dans le générique et parfois à l'intérieur de la série, tu vois des véritables documents d'archives, photographies de Pablo Escobar, le vrai. Ils ont pris un acteur évidemment qui est très ressemblant.
Est-ce que tu le vois sur son âne ou pas? Parce que moi, quand je Pablo Escobar, je vois Pablo Escobar qui pèse 150 kilos sur un âne. T'as jamais vu cette photo?
Écoute,
elle est extraordinaire.
Non, il y a
c'est les années 80 en même temps.
La photo la plus connue, c'est celle, la première photo où il s'est fait arrêter par les keufs pour trafic, et où il est au commissariat avec la plaque numérologique en dessous de son beau sourire et qui lui a posé de gros problèmes parce que ça lui a empêché d'être président. Et il aurait pu être président. C'est vraiment une histoire
ça
de fou
peur, hein,
et un personnage de dingue. Et là, j'ai pas encore terminé la saison. Je suis au sixième épisode sur 10 qui composent la série, qui sont immédiatement disponibles comme souvent avec les séries Netflix. Et vraiment, je vous le recommande, c'est un pur kiff. Si vous avez aimé, je sais pas moi, ces films de gangsters, un peu cette période Scarface
les incorruptibles, etc.
L'histoire en fait de la de la drogue, des parrains et du cartel de la drogue en Colombie. Franchement,
cartel de Medellín, c'est ça?
Cartel de Medellín. Parce qu'en fait, Pablo Escobar va s'associer avec les autres grands barons de la drogue. C'est vraiment, mais franchement, on a du peine à croire que ça a réellement existé, tellement c'est dingue en fait ce qui s'est passé autour de la cocaïne et de son introduction aux États-Unis.
Bah, ça fait un peu penser un peu à l'histoire d'Al Capone aussi, hein, sauf que Al Capone c'était l'alcool.
D'ailleurs, il y a un passage assez drôle,
c'est un peu le même style de personnage.
Par rapport à Al Capone, c'est sans commune mesure. C'est-à-dire que ce mec-là faisait 6 milliards de dollars par an.
Il était archi milliardaire.
Il avait un vrai véritable problème.
Il
cachait son argent. Il y avait un mec qui tenait. Il l'appelait Barbe Noire, non pas parce qu'il était noir avec une barbe, mais parce qu'il faisait le plan des endroits où Escobar planquait le pognon. Il l'enterrait, il le mettait dans des faux plafonds.
Ça n'avait plus qu'en faire de leur thune.
Enfin, bon, j'ai pas tout vous raconté, vous verrez. Voilà, si vous avez Netflix, c'est obligatoire. Regardez-le.
On peut ajouter qu'il y a à l'intérieur de cette série un acteur qui s'appelle Pedro Pascal. Si vous avez regardé Game of Thrones, c'est l'acteur qui a très mal au crâne à un moment de la série.
C'est l'adjoint d'Escobar. Et d'ailleurs, cet acteur, comment s'appelle-t-il? J'ai déjà oublié.
De quoi?
Wagner Moura, qui joue le rôle de Pablo Escobar.
Wagner, j'adore leur prénom.
Extraordinaire.
En Amérique du Sud.
Extraordinaire. Évidemment, tout est en espagnol et en anglais. Il y a très peu de passages en anglais finalement. C'est vraiment très authentique. Ça, c'est très agréable. Voilà.
Très bien. Mais on va écouter quelque chose d'authentique aussi avec mon hors-jeu de la semaine. Je crois que vous avez déjà eu l'occasion, si vous êtes venu sur Gameblog évidemment, de savoir de quoi je vais parler. Alors attendez, est-ce que ça commence? Oui, ça commence. Ça y est.
Ah non, je sais pas, que je connais rien.
Vous entendez ou pas?
La petite maison de la prairie?
Pas du tout. Alors, il s'agit d'un saxophone et d'un piano. Le saxophone appartient à Norihiko Ibino et le piano appartient à Ayaki. Ce sont deux hommes qui ont décidé de s'associer il y a un peu plus d'un an, deux ans même, pour former le groupe, le duo Gentle Love. Et,
oula,
et leur truc, c'est de reprendre en version jazzy et tellement cool que c'est devenu le titre même de leur série d'albums qui s'appelle Prescription for Sleep, autrement dit ordonnance pour
dormir,
penser quoi,
pour dormir hein.
Et c'est un peu ça avec ce qui est sorti cette semaine.
Ça détend
les...
Moi j'ai envie d'aller au 6ème étage hein.
C'est vrai.
Tu me l'enlèves de la bouche. Ça fait très musique d'ascenseur quand même.
Ah là,
j'ai mais bon après moi j'ai envie de ça.
Donc vous allez où monsieur? 6ème étage,
6ème étage,
rayon lingerie.
Ce que vous entendez là, c'est une musique de Secret of Mana, parce qu'ils se sont dit qu'ils allaient se pencher sur Secret of Mana.
C'est une musique par
du FF7, du DuckTales, du Nier dans leurs précédents albums. Cette fois, c'est entièrement Secret of Mana. Ça s'appelle Lullabies of Mana.
Music for Elevators.
Mais non, pas
oh.
Non,
mais
ça sort cette semaine. Julien en a parlé langue. Effectivement il y a quelques jours.
Ouais, sur... et
ça,
donc,
mais t'écoutes ça dans quel contexte
c'est
le soir
quand t'es mais à la maison.
Mais
t'es
avec un thé à la main et tout.
Dans le métro, ça marche très bien aussi. Pour te détendre, c'est extraordinaire.
Je suis jamais
ça coûte
moment,
environ 9€. Si vous allez le prendre, je ne sais plus
l'album.
Comment ça s'appelle. Ouais, l'album. Il ouais. Y a les deux autres aussi. Hein. Je vais pas vous faire écouter, mais il y a deux autres albums qui sont des compiles. Eux avec d'autres jeux qui sont abordés. Et voyez, enfin, en écoutant, vous voyez, c'est tout calme.
Dans le métro, c'est spécial. Quand même. Dans le métro, j'écoute plutôt Rage Against the Machine.
C'est ce que j'allais dire.
Dans le métro. Moi, j'ai plutôt envie de me calmer dans le métro avec tout le bruit qu'il y a autour.
Ouais, c'est bien. Il y a une
ah, donc voilà, Lullabies of Mana, n'hésitez pas, et comme je vous dis, ça coûte 9€, et sur le site même de, comment dire, le premier site de téléchargement, moi je l'ai pris sur iTunes, mais il y en a un autre où ils vous offrent le, comment dire, les deux chansons, enfin les deux morceaux qu'ils avaient composés pour Satoru Iwata, notamment en hommage, qui était paru cet été. Voilà, donc ça s'appelle Prescription for Sleep, Lullabies of Mana, et maintenant je vais baisser ça.
Règle le titre,
sinon on va tous s'endormir.
Sinon on va tous pioncer. Voilà, et ça a l'air de marcher. Bref,
super.
Merci pour ce hors-jeu, en tout cas.
Merci à toi,
merci,
merci à vous les garçons.
Merci à toi, Carole, Julo.
Merci à toi.
Merci
de nous avoir endormi
pour cette pièce. Merci
beaucoup.
Et maintenant, on va passer à la fin du podcast, parce que c'est comme ça qu'on va terminer aussi. Toujours en se remerciant, dis donc.
Merci, Traz.
On se tape pas dans le merci,
Caro. Merci, mon Traz.
Merci, Plumon.
Merci, Julo.
Merci, la borne d'arcade, Crash Bandicoot.
Merci, la borne
avec
Crash.
Merci à toi, public.
Avec Crash, dont on n'a pas parlé pour la PlayStation Experience, mais on s'est bien fait troller aussi sur Crash Bandicoot.
Oui, ça, on a cru qu'il y aurait une annonce.
Et ça, on vous laissera en discuter sur le forum, dans les commentaires.
Et joyeux Noël.
De l'absence de Crash, qui était quand même sur un t-shirt pendant un
joyeux
petit moment.
Noël.
Et voilà,
joyeux
c'est
Joël.
Comme ça que s'achève ce podcast 361, qui était dédié uniquement à la PlayStation Experience et aux Game Awards. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un autre podcast qui lui sera peut-être plus consacré maintenant à cette fin d'année, peut-être les jeux de Noël, peut-être les consoles, peut-être les bilans des consoles, je ne sais pas. Ouais. Je ne vous en dis pas plus,
peut-être
en tout cas
qui va arriver
la semaine prochaine. Merci Traz, merci Caro, merci Julo.
Ciao,
à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout jouez bien. Ciao
ciao.
Salut
et cassez rien.